ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé deux contrats le 31 août.
Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou.
Alors mon coach, avant l'échauffement, j'ai dit, coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pouah, tu sors un super match.
Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, a.k.a. Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps, let's go!
Planté.
Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas et on est très content d'être là. On s'excuse, la semaine dernière, on a eu des emplois du temps un petit peu trop chargés. Mais comme d'habitude, on est de retour pour délivrer, comme dirait Ricky Friandiz, la bonne parole. Friandiz, comment ça va?
Écoute, tranquille, on est là, ça va. Hein. En effet, actif, dans le bon sens du terme. Là, j'ai sorti mon petit café, hein, vous m'excuserez, mais c'est l'heure de couper en France. Donc voilà, je romps mon jeûne tranquillement. Et content d'être avec vous, avec un invité super intéressant aujourd'hui.
Mais c'est bien, Ricky, on voit que c'est le Ramadan, la barbe elle pousse, hein.
Doucement. il doit bien, ça c'est un mois de pouce, ça, déjà. C'est pas parce que c'est le Ramadan, c'est un mois de pouce. Rien qui sort.
Il y a rien qui sort, ça pousse pas.
Non,
okay. Calme. Etiel, ça dit quoi là-bas?
Eh, moi c'est 7 ans de pouce. Et de... Je suis obligé de la rétrécir, tu vois, tellement elle pousse vite. Mais on a chacun nos problèmes, hein. Non, Etiel, ça va, les gars. Week-end sur les terrains entre les fistons, les filles et notre victoire hier dans le derby contre Orlando. Voilà, toujours agréable, hein. On construit dans la. C'est plus facile de construire dans la victoire, même si y a pas mal de choses à améliorer. Mais tu vois, j'aime assez bien l'angle que tout le monde prend, que ce soit le staff ou même les joueurs. C'est un côté. Eh les gars, ça fait 2 victoires, mais il y a un sentiment d'inachevé, un sentiment de mécontentement, et j'aime assez, tu vois, j'aime bien le côté la victoire fait pas tout oublier. Donc ça, c'est quelque chose de prometteur dans un début de saison. Voilà, c'est toujours important de prendre le bon wagon. Donc voilà, et toujours dans la gratitude, hein, les gars, content d'être là, et puis content d'avoir avec nous notre invité que tu vas introduire après nous dire. Ce qui se passe du côté de London, si toutefois vous voyez un peu le soleil, si tu vois.
Et nous tout. Et ouais, on voit le soleil. Je te dis la vérité. Ce matin, je me suis réveillé. Je suis sorti, j'avais un rendez-vous. Il y avait du soleil et ça a changé toute ma journée. Normalement, lundi, tu vois, parce qu'on est lundi quand on enregistre, pour ceux qui savent pas, bah, il fait gris, c'est compliqué. Mais là, il faisait bon et ça change tout. Donc, non, du côté de London, ça va, hein. Il y a la trêve internationale qui arrive. Donc, ça va se calmer un petit peu. Après, non, rien de spécial. Les enfants, ma fille qui reprend bientôt la compétition. Je te jure, on dirait que j'ai la pression. Après 8 mois de blessure, après 8 mois d'inactivité au niveau de son tendon d'Achille. Ça faisait 8 mois, Ricky, qu'elle n'a pas couru. Elle n'a pas sprinté depuis 8 mois. Et tu la connais, tu vois comment elle est. Ah, elle est trop à fond. Et ça équivaut à des, tu vois, elle a 13 ans, elle va avoir 14 ans, montée d'hormones et tout ce qui se passe. Donc franchement, il est temps qu'elle reparte sur les pistes d'athlétisme, tu vois, pour aller se défouler réellement, parce qu'elle voit les autres en train de performer, elle est là, elle performe pas. Donc c'est ce qui a pris beaucoup, énormément de mon temps et de mon énergie ces derniers temps. Je vais pas te mentir, j'ai beaucoup bossé, mais ça en ce moment, c'était pas préoccupant, mais ouais, ça a fait pousser encore plus ma calvitie et donner un peu plus de cheveux blancs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on arrive à ce niveau-là, c'est une expérience. Mais bon, enough of me. Et ouais, parce qu'en en off, hein, avant que Quentin il s'y mette, tu vois, il a voulu tailler nos casques et bon, pour vous nos auditeurs, nos viewers.
Vous qui avez acheté la prévente pour les DJ, la mix party.
Bah apparemment dans le Grand Est, parce qu'ici on est 4 personnes et on va dire des connexions du Grand Est, et notre invité est un Mosellan de naissance, Thionville.
Ouais, de naissance.
De naissance. Une Thionville. Exactement, bah, et comme l'a dit Quentin, Ricardo, très intéressant par rapport à, pour vous, pour nous tous, monsieur Pierre Barrieux, bon, enchanté et bienvenue à BMC.
Merci. Bien. Impressionné, merci. J'étais un peu intimidé parce que je m'attendais à un surnom, hein. Entre les surnoms, ça envoie, là, des TL, des Baby Bass, coach Ricky, etc. Donc. Monsieur Pierre Barré, merci à vous.
D'abord, moi c'est Ricky Friandise, maman, surnom.
Ah oui, il y avait ça aussi, Ricky Friandise.
aussi.
D'abord, Ricky Friandise, d'abord, tu vois. Mais surnom, il va venir avec le temps. T'inquiète pas, on chauffe. C'est comme, tu vois.
On va le trouver.
On va le trouver. C'est comme ton, on va dire, je pense que ton métier, ta profession le dit, il faut s'échauffer. On rentre pas dans un match comme ça. On rentre pas en train, tu vois, on peut pas mettre une frappe aujourd'hui, surtout à notre âge. On peut pas se lever et mettre frappe. Bien. 40 mètres et on risque de se blesser. D'accord?
C'est bien. Très propre. Très pro.
Merci beaucoup. Non, mais comment ça va déjà? Comment ça va? Où es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Raconte-nous un petit peu.
Alors, comment ça va? Très bien. Très content de voir une figure, un faciès familier, Quentin. Je suis au Pays Basque, je suis en Andaye, parce que, en fait, c'est vrai que je suis né en Lorraine, mais j'ai toujours été un peu partagé. Mon père est d'ici. Ma mère est Lorraine, mais bon, elle était sans rencontrer ici parce que elle habitait déjà ici. Donc, on a une maison familiale et, je suis ici depuis avril dernier en stand-by parce que, ben, j'étais à Leeds, ça s'est terminé. Donc, je profite de ma seule période d'inaction depuis X années. Donc, je veux pas te mentir, c'était assez agréable au début. Bon, après, comme toujours, on veut retourner parce qu'il faut bosser et le naturel va prendre le galop. Donc ça, c'est pour où je suis et ce que je fais à l'instant T. Maintenant, me présenter professionnellement, tu veux que je raconte un peu mon parcours?
Bah, peut-être pas
okay. Toi, parce que moi, sincèrement, Pierre, enfin, moi je te connaissais de nom par Quentin, bien évidemment, aussi par réputation. Mais j'ai vu des Émirats Arabes Unis, j'ai vu des Leeds, j'ai vu des États-Unis, j'ai vu de la France, j'ai vu et je dois en manquer. Donc j'aimerais bien un peu savoir ton parcours et ce que tu as fait et qu'est-ce qui est arrivé pour que tu arrives aussi un peu à l'élite du football mondial, en fait. On peut le dire ainsi, hein.
Ouais, écoute, le parcours simple, j'étais prof de sport à la base en France, jeune diplômé, nommé dans la banlieue parisienne. Et j'avais de la famille aux États-Unis, j'ai toujours été plus ou moins bilingue. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas être prof de sport. J'ai toujours été intéressé par la prépa physique. J'étais handballeur à l'époque aussi, je jouais à Villemonde, donc en NMB. Et j'ai fait les deux, en fait. À 16 ans, j'ai fait plutôt du hand. Et puis je me suis lancé, je me suis dit, bon, en France à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un programme universitaire à Dijon, Cometti, je pense que ça doit parler à certains. Ouais. Qui à l'époque bossait en Italie, mais il y avait que ça. Et je me suis dit, ben écoute, il y a une culture aux États-Unis qui n'existe pas chez nous, qui existe un peu plus maintenant. Hein. Une culture, justement, t'as parlé athlète, Sébastien. Donc ma femme est athlète, mes enfants sont athlètes. Donc quand je regardais les JO, j'entendais l'hymne américain à l'athlète à la moitié des podiums. Donc je me suis dit, je vais partir aux US, je vais faire un master de kiné du sport. Je vais me mettre en retrait d'éducation nationale et puis je vais mettre un peu en place tout ce que j'avais en tête, parce que moi, quand je faisais du hand, qu'on partait en stage et qu'on me réveillait à 7h du matin pour aller faire que les kinés me réveillaient à 7h du matin pour faire un réveil physiologique, j'étais jeune à l'époque, hein, j'ai le CAPES à 21 ans, donc tu vois, j'aimais bien qu'on me justifie les choses, quoi. Quand je cours en Roumanie en stage en août à 7h du mat, je me dis à quoi ça sert, et j'avais pas les réponses. On ne donnait pas les réponses parce que c'était des métiers qui n'existaient pas à l'époque. Donc, Donc je me suis dit, ben, moi ça m'intéresse, moi je veux le corps humain, les performances, optimiser tout ça, ça m'intéresse. Et par rapport à ce que je faisais avant, j'entraînais un peu au foot aussi. Et les bouquins, et puis discuter un peu avec le comité à Dijon, et je suis parti aux US, j'ai fait ce master de kiné du sport. Je suis rentré dans, j'ai eu la chance dans une fac assez prestigieuse au niveau académique, mais aussi au niveau foot, Virginia. Même à l'heure actuelle, c'est la fac qui a le plus gagné de titres universitaires aux US. Je crois qu'ils ont gagné 9 ou 10 de championnat, alors que derrière, ça doit être UCLA avec 7. Et puis, arrivé, hein, Virginia, ouais.
Virginia, ok.
Ouais, VA. Et puis je suis arrivé là-bas et je me suis mis en tant que bénévole. Donc j'ai passé mon master de kiné du sport. Je me suis présenté au préparateur physique de la fac de UVA. Donc lui, en gros, lui il chapeaute tous les sports. Hein. Le foot américain, c'est énorme. Le basket, c'est énorme. Et le foot, etc. Et puis j'ai fait un été avec l'équipe de foot américain. Il a parlé au coach en haut qui avait ce français en bas qui connaissait le foot, qui aimait le foot. Et je fais ça plus rapidement. Le coach est venu me voir. Ils m'ont proposé un poste à mi-temps. J'ai bossé avec le foot. On a fait une saison extraordinaire. C'est ça qui m'a propulsé, en gros, qui a fait que les gens ont entendu parler de l'équipe de UVA. Ils connaissaient. Par contre, ils disaient que physiquement, c'était quand même bien. Parce que ce mec-là, ce coach de UVA, il m'a dit, écoute, une fois tous les 4 ans, on a une pré-saison. Bah, Quentin, tu connais plus le foot NCAA, le foot universitaire, mais c'est super strict. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux, c'est quand même des étudiants. Donc, une fois tous les 4 ans, tu as le droit d'avoir l'équipe en stage en été, quoi. Et il se trouvait que c'était cet été-là, mon deuxième été. Ouais. Parce qu'en fait, ton cursus universitaire, c'est 4 ans.
4 ans, oui.
Donc, c'est
formé. Donc, tu peux avoir une nouvelle équipe, en fait.
Non, c'est pas pour ça. C'est qu'ils veulent toujours. Enfin, ça va être. On peut parler pendant 10 ans du foot, du système NCAA, mais là, il y a une révolution. Il y a 2 ans, maintenant, il y a les droits à l'image. Donc, maintenant, tu peux partir d'une fac à une autre. Ça a tout changé. C'était un tremblement de terre. Mais sur les 90 ans qui ont précédé, en fait, ils essayent vraiment de préserver le student athlete, l'étudiant, athlète, quoi. Et donc, en fait, ils restreignent drastiquement les temps d'entraînement, ça va jusqu'à la température des entraînements, les durées, etc. Donc, dans toutes les facs, t'as des officiers qui s'appellent compliance officers qui vont relever la température à l'entraînement parce que tu n'as le droit qu'à X entraînements avec une température au-dessus de, allez, je te dis ça, 35 degrés, c'est 90 Fahrenheit. Donc, et t'as aussi dans toutes ces règles-là, ben, tous les 4 ans, parce qu'un cursus universitaire des 4 ans, donc ils veulent pas faire ça tous les étés parce que t'es censé étudier. Par contre, ils te disent, OK, on va leur donner un été tous les 4 ans, ce qui fait que chaque étudiant dans son cycle aura le droit à une vraie pré-saison. Voilà.
Okay.
Donc mon deuxième été c'était ça. On est parti à Papendal au centre technique hollandais. Donc et moi le coach m'a dit coup de pierre. J'étais à l'américaine parce qu'on me l'a fait plein de fois. Il m'a dit moi je t'ai pas pris pour te brider. Montre-moi ce que tu peux nous apporter. Et donc là, tout ce que j'avais cogité pendant toutes ces années à la préparer, les filières énergétiques, les préparations, comment faire ça. Et donc, j'ai mis ma méthode en place. On a une saison, en fait, sur 23 matchs, on a fait 22 victoires et un nul. Donc, alors, on avait une super équipe, hein. Tu connais les, Quentin, ça a parlé. Il y avait des Cal Martino, des Aleko Escandarian. C'est des gars qui ont fini premier tour de la draft en MLS. C'est de là.
Internationaux aussi. Ils ont été internationaux.
Ouais, internationaux, rookie de l'année. Enfin bon, voilà. Mais donc on a fait cette saison-là et c'est ça qui a donné la puce à l'oreille au coach de la Fédé. Le coach de Virginia a entraîné moins de 18. Il m'a pris en camp. On est parti. C'était mon premier stage avec l'équipe nationale. Enfin, avec une équipe nationale US. On est parti à la Milk Cup en Irlande du Nord qu'on a gagné. Et à l'époque, c'était quand même pas. Ben, Quentin, je l'ai eu un peu plus tard. Alors ça va faire vieux. Par contre, j'étais jeune à l'époque. Hein. Donc là, on est en mon année à UV, c'était 99.
D'accord, 99. C'est pour un peu sensualiser un peu.
C'est en 99, ouais. Après la Coupe du Monde, je suis parti après la Coupe du Monde en France.
Donc pour le coup, c'était vraiment novateur en plus.
Ah oui, et parce que là-bas, il y avait une vraie demande, et surtout, il y avait rien en France, parce que maintenant, on imagine la France telle qu'elle est maintenant, mais voilà, ça n'existait pas, quoi.
Mais c'est pas c'est l'année justement parce que ouais. Voilà quand on reprend le contexte là on se rend compte que
c'était vraiment c'est ça. Donc c'était 90 je suis parti 99 première année l'été 2000 c'était cet été où on a fait la pré-saison 2000 Les 18, c'était de pareil. Ça devait être 2001 peut-être, les 18. Donc là, ça se passe très bien avec les 18. Je suis toujours à UVA. Et là, le coach de UVA me dit, j'ai le coach de l'équipe nationale là qui me pose des questions. Et le connaissant, ça m'étonnerait pas que tu reçoives un coup de fil. Et effectivement, je reçois un coup de fil fin 2001 disant qu'ils ont, ils préparent la Gold Cup. Je pense que vous savez ce que c'est l'euro de la CONCACAF en gros quoi. C'était en janvier 2002. Et là, il me dit, Pierre, bon, bah, est-ce que t'es dispo? Alors, j'ai dit, ouais, je suis dispo, ouais. Donc là, ils m'ont fait venir en tant que vacataire. J'ai fait que la prépa, j'ai pas fait la Gold Cup. Donc, je les ai eu pendant 3 semaines. Et là, pareil, Bruce Arena, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, écoute, bon, j'observe quand même UVA depuis un bout de temps. Je dois préciser que son fils joue à UVA. Ça aide aussi. Parce que donc, il voyait tous les matchs. Donc, il voyait un peu l'évolution et la transition par rapport aux années précédentes. Et donc j'ai fait la prépa de cette Gold Cup 2002 avec pas mal de joueurs qui maintenant sont coach, tu vois, des Greg Berhalter, des Benny Olsen, des coachs de MLS, là j'en ai d'avoir 10 dans cette équipe, Josh Wolf, et donc ils ont gagné la Gold Cup. Et la Gold Cup, je crois que c'était la 3e fois à l'époque que les États-Unis gagnaient la Gold Cup. Il faut revoir aussi dans le contexte que cette équipe américaine en 98, elle a fini dernière en France. Donc maintenant on a une autre présentation. Donc bref, il gagne la Gold Cup et puis après il y a 2-3 matchs internationaux et moi j'ai fait que la prépa, donc je suivais ça avec attention évidemment. Et là le même coach de UVA me dit, Pierre, à mon avis, le connaissant, il va peut-être t'appeler pour la Coupe du Monde. Et effectivement, j'ai eu un coup de fil pour est-ce que tu es dispo pour la Coupe du Monde 2002. Oui, et donc je suis parti avec eux et on a fait un quart de finale. Et je pense qu'on pourrait même mériter d'aller en demi, très sincèrement, sur cette Coupe du Monde. Et après, ils nous proposaient un plein temps et après, c'est parti.
Encore en 2002 ?
On perd contre l'Allemagne.
On perd en quart 1-0 contre l'Allemagne.
Ah, Balak, c'est ça ? Non, qui met la tête ?
C'est Balak, ouais. Par contre, il y a aussi, on tape 3 fois les poteaux et il y a aussi. Parce qu'Oliver Kahn fait un match de malade en plus, il tape les poteaux. Et il y a aussi, s'il y avait eu la VAR à l'époque, ben il y avait penalty carton rouge. Parce que sur un corner, c'est Greg Berhalter, l'actuel coach des US. Ça passe en dessous d'Oliver Kahn et t'as, comment il s'appelle lui, Thorsten Frings qui est au poteau et qui sort le ballon de la main comme ça, quoi. Donc tu regardes, si tu tapes Thorsten Frings USA et tu vas voir que t'as le mec au poteau, le ballon sous la ligne, Kahn par terre et il a le ballon sous le bras comme ça, sur la ligne de but. Ouais. L'arbitre le voit pas.
C'est du showbiz.
C'est un marteau d'avance, en fait.
Arrête.
En avance, c'est pour ça.
Du showbiz à l'américaine, arrêtez ça.
Non, mais écoute. Je suis en train d'échauffer. Je suis sur la ligne. Tu vois, je suis en train d'échauffer les remplaçants. Et là, tout de suite. Justement, parce que tu vois, c'est la différence de professionnalisme. Là, tu prends cette équipe US, même 10 ans plus tard. Il y a un mec qui le voit. T'aurais eu 10 mecs autour de l'arbitre. Mais sauf qu'à l'époque, pour eux, tu vois, c'est un peu tout est neuf. Donc, t'as un gars qui à peine va voir l'arbitre, Landon. T'as Berhalter qui l'a vu par terre, qui dit un petit quelque chose à l'arbitre. Donc, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Par contre, moi, j'ai rien vu. Je suis en ligne avec le but, avec les joueurs au porteau de corner. Et on perd 1-0. Et à la fin du match, t'as Klinsmann qui descend. Il dit toutes les télés, il y a main. Ouais, ben bon, on l'avait pas vu. Et l'arbitre, c'était Hugh Dallas. Il l'a pas vu non plus. Bref, donc là, c'est parti. Il me propose un plein temps. Et là, je pars avec la Fédé. 2006, je pars un an au Red Bull. Je reviens avec la Fédé. La Coupe du Monde 2010, et en 2011, je pars aux Émirats faire à peu près ce que je faisais aux US, c'est-à-dire organiser la prépa physique à la Fédé, mettre en place le diplôme de préparateur physique que j'avais mis en place à la Fédé américaine. Okay. 3 ans là-bas, et après, c'est là que ça commence à se compliquer. Parce qu'en 2014, en gros, j'arrête, vas-y.
Friday, stop Friday. Take a breathe out. C'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Non, voilà.
J'ai l'impression qu'on n'est pas à la moitié encore.
Non, et on n'est même
2014.
Pas à la moitié. Marquez bien.
Il nous reste encore 10 ans.
Là, on est en 2014.
Et nous tu reste 10 ans encore.
Issa, toi, tu bloques, tu mets 2014. Là, on s'arrête. Mais moi, j'avais une question par rapport à... Parce que de prof de sport, tu vois, prof de sport, handball, on en arrive. Là, t'as raconté comment t'es arrivé dans le football. Mais moi, je parle de toi, la personne, Pierre, l'être humain, le jeune... Est-ce que t'aimes le foot? Est-ce que t'aimais le foot pour en fait?
Oui, oui.
Non, mais vraiment dans le sens parce que voilà, je me pose la question aux gens. Est-ce que vraiment t'étais un mordu du foot pour aujourd'hui peut-être rêver de à un moment donné de tu vois de je sais pas de préparer certains joueurs de est-ce que tu les regardais de la même manière que on en parlait la semaine dernière Ricky il avait des panini on avait tous des panini on se créait une certaine narrative et une tu vois une certaine idéologie du monde du joueur on l'idéalisait certains joueurs est-ce que toi déjà tu voulais être joueur et ouais. Si tu voulais comment t'as shifté tu vois vers le truc du métier entre guillemets pas annexe mais pas footballeur mais dans l'industrie du football.
Première question, que j'aimais le foot, ouais, j'ai toujours été un malade de foot. Donc j'avais, tu vois, j'ai des photos, j'ai fait tous les maillots, j'ai des photos à travers tous les âges, tu vois l'évolution des maillots. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire. J'ai donné rendez-vous à ma femme à l'époque actuelle. Mon premier rendez-vous galant, je l'ai raconté à Quentin. Je lui ai donné rendez-vous sur la tribune Moselle. Je lui ai dit, écoute, il y a un match contre Nancy, j'ai des tickets. Si tu veux venir, je serai là. C'était mon premier rendez-vous. C'était pas resto Champagne. Elle est venue. And the rest is history.
Elle peut vraiment t'apprécier, hein.
Et t'imagines, elle était derrière le but, debout à l'époque, hein. C'était pas les tribunes de maintenant. C'était la tribune Canal que tu connais. C'était debout.
Pas des Nancy, alors.
C'était à Metz, Nancy. Elle habitait
à
son père.
À Metz.
Ouais. Bref, et donc j'ai toujours été un malade de foot. J'ai fait du foot étudiant des deux comme un fou jusqu'à 16 ans. Et c'est là que mes parents m'ont dit, bon, j'étais nettement meilleur au hand. Et ils m'ont dit, bon, il faut peut-être décider. Par contre, je me suis jamais vu, j'ai jamais rêvé imaginer que j'aurais la chance d'être joueur. Ça, non. Je suis quand même réaliste. Et puis j'étais toujours un peu plus porté sur l'étude. Et j'étais tellement meilleur au hand que voilà. Par contre, oui, au hand, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, est-ce que je veux vraiment en faire mon métier? Mais bon, à l'époque, sauf l'équipe de France, tu vois, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que et à l'école, ça se passait plutôt bien à l'école. Je te dis, j'ai eu mon CAPES assez jeune. Donc, ça, c'est pour est-ce que j'adore le foot? Non. Donc, j'ai joué, oui. J'ai pas mal de potes, notamment à la fac, qui étaient pros. Donc, j'avais un pote, Paul Fischer, par exemple, qui à l'époque était
à Nancy. Hein,
ouais. Donc, j'ai toujours un peu. Ouais, latéral central, un peu. Il y a pied carré, donc ça, tu peux mettre n'importe où. Très rapide, très physique. Donc, voilà, j'ai toujours baigné un peu dans, tu vois, autour des terrains, regarder les entraînements. J'avais toujours le cerveau en marche, quoi. Et après, très sincèrement, dans les études de prof de sport, donc dans les sites de sport co, j'étais toujours plus ou moins foot. J'avais vraiment ce truc en moi d'avoir cette méthode de prépa physique que je voulais mettre en place. Parce que c'est vrai qu'en France, et Ricardo, il en est témoin en ce moment, bon, tu passes tes diplômes à l'INF, il y a une méthode qui t'est un peu imposée. Et moi, en fait, j'ai fait ma formation, je suis autodidacte. Je dis pas ça pour me faire mousser, parce que c'est vrai. J'ai fait mes formations à la FFF après avoir mis mes idées en place. Donc voilà, et c'est ma méthode. En gros, il y avait beaucoup de cours. C'est basé sur les filières et le reste, ben, je l'ai appris sur le terrain. Je l'ai appris à UVA. Je l'ai appris pendant ces années-là pour avoir une méthode un peu plus spécifique ballon, quoi.
Voilà. Et tu vois, Pierre, nous, ce qu'on aime beaucoup souligner dans ce podcast, parce qu'on a énormément d'auditeurs qui adorent le foot. Et donc, comme tu viens de le dire, t'es rentré dans ce milieu du foot par passion et parce que t'as trouvé, en fait, ta vocation dans le sport que tu aimais. Et c'est ce qu'on aime, hein. On a eu Mathieu Lille-Palette qui est senior vice-président à Opta, qui est presque plus involved dans le foot que nous tous, alors qu'on en a vécu du foot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on aime bien faire un panel de tous les métiers, ou en tout cas avoir assez de gens, même les journalistes. Nico Villas, la semaine dernière, nous disait, mais il est en contact incroyable et il est baigné dans le foot maintenant, presque plus, il sait presque plus de choses que nous, les footballeurs pros. Moi, je voulais juste que, parce qu'il y a quand même un statut, tu vois, et tu quittes la France où à l'époque, comme tu dis, en 99, les prépas physiques, c'était footing en forêt à 7h du mat et tu cours comme un sourd, tout le monde au même rythme, zéro différenciation. Enfin, tu connais, c'était un truc vraiment très standard. Et fast forward 30 ans, maintenant, tu es directeur Head of Sports Science. Voilà tes titres. Enfin, voilà, je sais que t'as aussi Head of Performance, enfin, t'as l'équipe Performance, Sports Science. Voilà, la définition, je suis parti chercher, il n'y a même pas une définition bien, bien stricte, mais une description que j'ai bien aimée. Et si on pouvait ensuite avoir ton avis. La Sport Science fait partie d'une équipe pluridisciplinaire ayant pour but le développement athlétique de l'athlète et l'optimisation de ses performances à l'entraînement et en match.
Ouais, ouais, c'est, alors des définitions, tu peux en avoir une tonne. Oui, alors c'est une bonne définition. Moi, je très sincèrement, pour décrire mon job, je dis, t'es en charge de tout, sauf du tactique. Et donc ça comprend la prépa physique. Ça, alors tu connais qu'il y a des structures différentes. Est-ce que tu es aussi en charge du médical ou pas? Est-ce que tu supervises le médical ou pas?
D'arriver dans tes clubs. Mais ouais, si tu pouvais nous décrire un tout petit peu justement et ce rapport au médical qui est super intéressant pour vous les sports scientists et surtout la différence et le step up que ça a par rapport à ton entrée à la Fédé américaine comme prépa physique.
Ouais, ouais. Dire. Mais tu sais donc. Déjà, avant de rentrer à la Fédé américaine, l'une chose que j'ai faite, c'est pour ça que je suis parti aux US, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur d'athlètes à la Fédé américaine, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur d'haltérophilie, tu vois, j'ai fait un stage avec les New England Patriots, j'ai fait un stage aux Wizards, et je regardais en gros dans tous ces sports-là, en plus des diplômes d'entraîneur dans ces disciplines-là, qu'est-ce qu'ils font pour t'améliorer physiquement? Dans les autres sports, qu'est-ce qu'ils font au jour le jour? Et qu'est-ce que je peux appliquer au foot? Tu vois. Et donc, pour en revenir à cette époque au USA, il n'y a pas de diplôme de prépa physique à la Fédé de foot, comme en France. Et à la Fédé, je suis le premier préparateur physique. Donc, en gros, c'est Rémi Brica, One Man's Man. Hein. Tu fais tout seul. Tu fais, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. On parle de cardio, c'était Polar, c'était des technologies qui maintenant ne sont pas dépassées parce qu'on utilise toujours les cardio. Mais voilà, il fallait faire tout seul. Fast forward 30 ans, comme tu dis. Maintenant, tu as des équipes pluridisciplinaires. Alors dans l'ordre des évolutions, tu as eu d'abord le cardio, ensuite on est passé au GPS, ensuite on a rajouté les data, big data, tu vois, ce qui est important. Et là, je pense qu'on va passer très vite au visual tracking. Donc je pense que les GPS, ça fait 5 ans que je dis ça, mais je pense que le temps de vie des GPS est compté. On va passer à autre chose. Donc forcément là, tu peux plus être tout seul. Et forcément aussi, tu peux pas être un expert dans tous ces milieux. Faut pas exagérer. Et en plus, tu mets le médical. Donc, le job dans l'organisation, bah, on a été ensemble à Toronto. Avant, c'était la même chose quand j'étais au Galaxy, où là, j'étais en charge de tout, on va dire. Pour moi, je vois ça surtout un job de manager. C'est moins terrain que manager une équipe pour que ton équipe à toi, déjà, fonctionne de manière plutôt huilée. Et parce que quand tu as 13 personnes, forcément, c'est une petite armée, c'est plus qu'une équipe de foot, hein. Donc il faut que chacun se trouve sa place, chacun soit créer les conditions pour que chacun puisse s'exprimer et son mot à dire. Donc c'est vraiment du management. Et moi, ce que j'ai fait récemment, après tous mes diplômes en lien avec le physique, je me suis intéressé au mode de management pour être plus efficace dans cette situation. Alors aussi, quand tu supervises le médical, par contre, il faut avoir un background minimum médical. Donc moi, ma validation, c'est ce master de kiné du sport que j'ai passé à UVA. Parce que ça pose problème dans pas mal de ou alors le diplôme de FIFA Medicine que j'ai passé aussi. Mais bref, dans certains clubs, il y a le directeur du médical, le directeur de la prépa, qui bosse en tandem. Dans d'autres clubs, il y a soit un gars du médical qui supervise tout, soit un gars plutôt issu prépa physique qui supervise tout. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'aligne sur tout ce qui est entraînement des joueurs. Déjà, il faut que le joueur soit en bonne santé. Il faut pas qu'il y ait de blessure, d'accord? Pour optimiser, quand ta définition, optimiser le potentiel, si t'es blessé, tu risques pas d'optimiser ton potentiel. Donc, un, être sûr que le joueur puisse s'entraîner, et deux, optimiser sa capacité à entraînement et sa résistance à entraînement pour ensuite optimiser son potentiel. Comment? Ben, au jour le jour, on peut en parler. J'attends les questions, mais c'est une organisation. En gros, tu gères une équipe et t'es avec le joueur au centre du système pour essayer de l'aider au mieux. Pour
juste pour nos auditeurs et continuer sur cette question, les 13 personnes, tu peux nous décrire leur poste juste avant que Seb enquille sur autre chose, parce que ouais. Je sais qu'il y a énormément de gens intéressés qui vont dire, oh, attends, tu passes de prépa physique un peu à un peu tout seul et en 20 ans, tu t'arrives à la tête de 13 personnes médicales compris, mais ça consiste en quoi tous ces rôles? Moi, je le sais, on a bossé ensemble.
Ouais.
Ensemble en 2005 où tu étais tout seul et on a bossé ensemble en 2022-2023 où tu avais cette armée.
J'avais quand même un assistant en 2005, mais tu ne le voyais pas. Donc, l'armée, très simple. Alors, côté médical, il y a déjà quatre physios, hein, quatre kinés. Alors, dans ces kinés-là, moi, dans la mesure du possible, j'aime bien que chacun ait plutôt une spécialité pour que chacun amène des choses différentes. Donc spécialité, ça peut être l'acupuncture, ça peut être pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est quelqu'un qui ait des mains. Et par main, je veux dire, alors je pense en anglais, hein, faut que je traduise, deep tissue massage, le massage profond, tu vois. Parce que ça, c'est des techniques, voilà, c'est des gens ont des spécialités, des gens ont des dons que d'autres n'ont pas.
Mais juste en passant, Pierre, t'inquiète pas, quand tu parles anglais, ici, il y a un autre américain, il y a un anglais, il y a un nigérian. Donc,
allez, salut. je savais pas où ça allait, j'ai compris.
C'est un podcast totalement bilingue, t'inquiète pas. C'est bilingue,
t'inquiète totalement pas. Bilingue, trilingue, t'inquiète pas. Parle en anglais, tout le monde.
So deep tissue massage, quelque chose profond qui fait pas du bien. Donc, je pense à une personne qui était au Galaxy, qui est toujours au Galaxy, qui a un vrai don à ce niveau-là et qui aurait pu partir. Mais bon, lui, là, je l'ai vu le week-end dernier dans les élites, il est encore là. Et tous les gars passés au Galaxy lui ont demandé, Ibra lui a demandé s'il pouvait pas partir avec lui. Avant, David, pareil, est-ce que tu peux partir avec moi? Mais bon. Donc ça, c'est des mecs, c'est bien d'avoir des spécialités. Ensuite, tu vas certainement avoir un gars qui sera plus ou moins... Alors ça, c'est le côté médical et toutes les spécialités médicales. Donc, tu dois avoir maintenant en MLS, tu es obligé d'avoir un... Ça devient compliqué là. Tu as les athletic trainers. C'est un job qui n'existe qu'aux US. Donc c'est entre le masseur, le kiné du sport. C'est un kiné mais appliqué au sport. Mais le kiné comme on l'entend en France, ça s'appelle physical therapist. Et jusqu'à présent en MLS, t'étais pas obligé d'en avoir un. Sauf que maintenant depuis un an, t'es obligé d'en avoir un. T'es obligé d'en lister un, qu'il soit employé ou non, c'est autre chose. Donc quatre kinés, un physical therapist, un kiné à la française, on va dire, un chiropracteur. Un ostéo qui puisse manipuler, et puis toutes les spécialités médicales, alors plus ou moins plein temps, bon, un peu comme n'importe quel staff. Donc ça, on en est à 6. Après, tu peux passer du côté maintenant de la prépa en tant que telle. Donc il y avait moi, il va y avoir un prépa physique plus terrain, le gars qui va, en gros, on va bosser en tandem. Ouais, il va mettre les idées en place, on va se partager un peu le terrain. Il va avoir un assistant, un gars qui est un peu en dessous qui nous aide, et il va y avoir un prépa physique qui sera plus en charge du retour de blessure.
Okay? Un rehab.
Rehab train, ok. Donc, si possible, ce prépa physique, il faut qu'il ait aussi une petite base médicale. Ok. Et ensuite, tu as la nutrition. Donc, tu vas avoir une ou deux nutritionnistes. Ça dépend des clubs. J'en avais trois au Galaxy, par exemple, parce que le sponsor, c'est Herbalife. À Toronto, il y en avait une qui était à mi-temps. Donc, tu vois, c'est un peu différent que j'ai fait venir, là. Et après, tu vas avoir, ce que j'aime, si possible, c'est d'avoir quelqu'un au niveau du psychologique, du mental. Donc, parce que ça, c'est la nouvelle ère. Bon, c'est pas nouveau, mais je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut faire des différences. Donc, ça avait une ou deux personnes en charge de ça. Donc, voilà, on arrive à peu près à une équipe de 12-13.
Quand tu regardes ta manière de, on va dire, de procéder, ta méthode, est-ce que tu as une méthode déjà bien à toi que tu as créée? Est-ce que nous qui sommes européens, tu vois, européens, et tu as beaucoup voyagé, tu as commencé aux States, est-ce que ta méthode, elle est vraiment influencée américaine? Parce que je sais que les Américains, pour avoir beaucoup été aux États-Unis et pour travailler beaucoup avec des Américains, le sport, c'est vu différemment de chez nous. Ça veut dire que pour moi, il est, tout le monde le sait en français, mais c'est vraiment élitiste, c'est reconnu. Le sportif, on dit le student athlete, mais c'est vraiment, voilà, c'est reconnu. Est-ce que aujourd'hui, moi, pour voir les Américains, comment ils sont à fond dans le côté physique? Tu vois, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs américains, beaucoup de coachs américains, et le côté athlétique de la chose, tu vois, j'ai été aux États-Unis à Nashville faire un keynote speak par rapport au soccer, à l'art du football. Tu vois, c'était par rapport à l'art du football. Et parce que beaucoup, aux États-Unis, c'est beaucoup data driven. C'est beaucoup basé sur les data. Et Thierry Henry le disait beaucoup aussi, à quelle hauteur je saute. Enfin, tu vois, ce genre de pensée très, très physique. Comment toi, dans ton approche, qui au final, tu étais quand même européen, français, mais devenu américain, est-ce que dans ta manière d'opérer en Europe, tu as réussi à convaincre les gens de ce côté un peu vraiment physique, over, comme il dit Quentin, over l'art du football, le QI football, tu vois?
Mmh, ouais.
C'est exactement la même chose.
D'ailleurs, j'ai oublié de noter dans le staff, j'ai oublié de noter ce qu'on appelle maintenant le sport scientist, le mec qui n'est en charge que des data. Donc, c'est important parce que c'est. Alors, la méthode que j'avais moi et que j'ai plus ou moins toujours maintenant, elle est basée sur la course. Donc, tu as vraiment raison de préciser que il y a des différences de mentalité. Et moi, je résume ça comme ça. Bah, tu as parlé de Quentin. C'est que un Américain et un Anglais, parce que j'ai toujours toi qui est là-bas, les Anglais, c'est le cousin européen de l'Américain. Ils vont mettre en valeur le travail et l'effort plus que le talent. D'accord? Donc, alors je peux te sortir des quotes qui sont sur les murs un peu à partout. Donc, ils vont respecter ça. Ils vont avoir beaucoup plus de respect, en gros, pour un mec moyen, mais qui bosse comme un malade et qui réussit, plutôt que le latin qui va dire, putain, ce mec-là, qu'est-ce qu'il est doué, tu vois. Et même si c'est pas, voilà, il n'a pas les mêmes capacités physiques, parce qu'il les a pas ou parce qu'il les travaille pas. Donc, quand moi, j'ai mis mon truc en place là-bas, je dis toujours que je serais incapable, je suis toujours très pote avec Robert Pires. Donc, je suis à 100% persuadé, et de toute façon, c'est un fait, que je n'aurais jamais été capable de mettre ma méthode en place avec l'équipe de France. Impossible. Parce que c'est pas les mêmes statuts, c'est pas la même culture. Déjà, je ne serais jamais retrouvé en équipe de France vu mon parcours. Jamais quelqu'un m'aurait dit tiens toi, je vais te prendre, montre-nous ce que tu sais faire. C'est pas la même culture. Parce que moi, j'avais des gars qui en fait ne jugeaient pas. J'avais des gars qui jouaient dans tous les clubs européens quand même à l'époque. Hein. Mais eux, ils arrivaient et ils savaient que pour avoir une chance de performer, ben il fallait qu'ils dominent dans un domaine. Et leur idée, c'était de dominer dans le domaine physique. D'accord? C'était vrai aussi de la Corée du Sud à l'époque, qui organisait la Coupe du Monde. Moi, qui étais en relation avec leur prépa, Raymond Verheyen, qui a un nom dans la prépa physique, on s'était vu cette Gold Cup 2002 et il leur en mettait plein la gueule. Mais plein la gueule. Bon, pourquoi? Parce que c'est une mentalité asiatique, basée sur le travail, le respect, et puis ils voulaient aussi avoir cet avantage physique qu'ils avaient, hein. Les deux équipes à l'époque, dans la Coupe du Monde, ça a été nous et la Corée. Et donc, les Américains ont dans son tête, au niveau football, là, je te dis, d'essayer de dominer physiquement à la course, au moins. Et après, advienne que pourra, pourquoi? Parce que ce domaine du physique est quelque chose que tu peux contrôler. Alors que le reste, il y a beaucoup plus de paramètres. Par contre, là, ils se disent, si on bosse là, de cette façon-là, on sera prêt. Et après, ben, on sera battu, mais peut-être sur un autre, dans un autre domaine. C'était la mentalité, et ça a été la mentalité 2002, 2006, 2010. Quand j'ai fait une saison en France, c'était au Havre, en Ligue 2, et c'était difficile parce que ben, t'as pas le même vécu, t'as pas le même statut avec les joueurs, c'est une méthode complètement différente, et vous trois qui sont joueurs, il y a ce qu'on appelle des crutches en anglais, c'est-à-dire que, et c'est là, c'est la manière de coacher qui fait la différence, où là, il y a des joueurs, s'ils ne font pas quelque chose auquel ils sont habitués, ben, ils vont pas se sentir bien, quoi qu'il arrive. Donc, avec l'expérience, il faut savoir, quand tu me parlais de ma méthode n'est plus du tout la même en 2000, et encore heureux, en 2023, 24 qu'en 2002. Sinon, ce serait trop facile. Il faut savoir s'adapter aux technologies, au goût du jour, aux personnes. Et puis, on apprend. On apprend par l'expérience, on apprend par apprentissage, par essai erreur. On fait des choses qui marchent pas. Et il faut savoir pourquoi ça marche pas. Et puis, on fait des choses qui marchent, on les garde. Donc, au Havre, c'était beaucoup plus difficile parce que c'était la méthode, quote unquote, 3F. Il fallait faire du 10-10, du 15-15, du 30-30, sinon c'est pas normal. C'est pas normal.
Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu le même souvenir où j'ai eu la même expérience quand j'étais à Ajaccio. Parce que moi, je suis très tôt à la Roma, donc bon, là-bas, ils ont une culture aussi, la prépa physique.
C'est différent en Italie, évidemment, c'est lactique.
Non, très, très différent. Bon, après, bien ou pas, c'est encore un autre débat. Et quand je suis arrivé à Ajaccio, c'était en 2012, mais en 2013 est arrivé Ravanelli, qui était donc italien, tout ça. Il est venu, tu dois connaître, hein, il est arrivé avec Ventrone, le fameux préparateur physique, qui est aujourd'hui décédé. Et il arrivait à Ajaccio avec des procédés totalement italiens, italiens dans le vraiment strict du terme. Et ça n'a pas manqué. Hein. Les joueurs, ils ont pas adhéré du tout, blessures en cascade. Il s'est fait licencier au bout de 3-4 mois et puis après à la fin on descend parce que la prépa elle a pas été cata en soi parce que c'était une prépa comme moi je connaissais à mon époque, que moi j'ai totalement intégré, mais que l'équipe
trop différent.
Trop différent et du coup ouais. Ça a fait l'effet inverse.
Après attention hein, c'est au niveau physiologique, c'est une erreur de faire quelque chose complètement différent. Il faut voir le groupe que tu as en face de toi. Si tu as le groupe qui a fait un travail A pendant 6-7 ans, tu peux pas ne faire 0% du travail A et 100% du travail B. Ça va pas. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Par contre, c'est la réception, c'est la manière dont tu le présentes et la réception aussi des joueurs, parce qu'on en revient au préparateur mental, le cerveau contre le reste. Donc, si au bout d'un moment, tu as des joueurs en défiance devant toi parce que c'est différent... Bon, la méthode italienne est lactique, donc ça fait mal aux jambes.
Dans les formes, bon, exactement.
Oui, ouais. Donc il faut savoir présenter tout ça. Il faut que les joueurs soient persuadés du bien fondé de ta méthode. Moi, la chance que j'ai eue, c'est quand j'ai eu ces joueurs-là qui n'avaient pas d'a priori, ils m'ont dit allez, vas-y, fais-nous. J'ai entendu parler que ça marchait pour la Gold Cup, on l'a gagné. Les mecs, parce que à la Gold Cup, les mecs, ils m'ont dit Pierre, attention, tu me fais rigoler là, tu en as mis plein la gueule, c'est vrai, on a gagné. Mais attends que King Claude, on avait Claudio Reyna à l'époque qui jouait à Man City, il me dit attends que King Claude arrive et tu vas voir ta méthode. Je me rappellerai toujours. Et Claudio Reyna est arrivé, il a dit bon écoute, moi j'ai entendu parler de ce qu'ils ont fait, ils ont des bons feedbacks, allez on y va à fond quoi. Donc eux ont fait. Et oui, ils ont fait une prépa, ça a marché, ils ont fait les effets, après c'est gagné, la confiance est établie, il y a plus ce problème, t'as plus à les convaincre. Et c'est vrai que en Europe, mais j'ai la même expérience à Leeds. À Leeds, on est arrivé après 4 ans de Marcelo Bielsa.
Ben, c'est ce que j'allais dire. T'es arrivé à Leeds et.
Donc, ça faisait 4 ans que ces gars-là avaient des stats physiques les meilleurs de, enfin, Championship et après Premier League. Donc, nous, si tu regardes les 10 mois qu'on est resté à Leeds, on avait les premières stats physiques de loin au niveau des sprints, distance high intensity en Premier League. On avait un groupe qui était conditionné à l'effort. C'est-à-dire qu'il fallait les convaincre qu'ils en avaient fait assez parce que pendant 4 ans, ils s'en avaient chié et ils avaient vomi et il y avait eu un nombre de blessés incalculable, mais ils avaient des résultats. Donc, c'est un groupe qu'il fallait réassurer qu'ils en avaient fait assez parce qu'ils voulaient toujours en faire plus. Donc, c'était vraiment déjà que les Anglais, en général, bon, ils ont cette culture de la force qui existe beaucoup en Premier League, beaucoup moins en Ligue 1, très peu en Espagne. Peut-être en Italie, il y en a un peu quand même, mais c'est vraiment en Premier League, il faut bouffer de la fonte, il faut faire lower body, upper body, tu vois. Donc pour un gars comme moi, c'est facile, c'est la même chose. Mais
par rapport à ça, j'ai une question, excuse-moi Pierre. Je veux seulement ton opinion parce que on parle beaucoup seulement des joueurs français ou des joueurs étrangers qui changent de pays, qui changent d'atmosphère ou d'écosystème, si je peux le dire ainsi. Et n'arrive pas à s'adapter. Est-ce que tu penses que le critère physique ça joue un grand rôle? Comme tu le disais, par exemple, quand on parle d'un côté physiologique A, et de tout, tu changes de pays, tu changes de ligue, tu changes de club, tu changes même de standing, tu passes aussi, on va dire, un côté physiologique B. Est-ce que tu penses que ça c'est aussi une des causes dans lesquelles des fois les joueurs n'arrivent pas à s'adapter à leur nouveau club ou à leur nouveau coach?
Tu penses à la cause standard d'entraînement? Tu parles donc.
Exactement. Ouais. Critère. Du foot. Non, généralement,
je pense pas que ce soit une des raisons pour lesquelles tu vois ça marcherait ou ça marcherait pas. Non, parce que ça c'est quelque chose qui est dans la mesure du possible. Si tu adhères mentalement, tu vois, et si ça marche. Alors évidemment, si tu me dis qu'à Ajaccio vous avez une tonne de blessés, forcément il y a quelque chose qui va pas. Mais au contraire, je pense que c'est vraiment pas les joueurs. On voit que les joueurs français s'adaptent à l'étranger, donc. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça dépend du cadre. Je vais pas me présenter comme un expert de l'Angleterre. J'ai fait 3 clubs. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait des clubs dans les clubs où j'étais, que ce soit à Sheffield Wednesday, à Swansea City, il y avait des cadres. Ce que je remarque, par contre, c'est que, comme en France, on parle de fractionner 10-10, 15-15, 30-30. En Angleterre, si tu veux vraiment définir un peu ce qui fait, j'étais pas été à Tottenham, donc ça m'intéressait d'écouter ce que pensait Sébastien. C'est vrai que le découpage de l'Angleterre et Quentin, t'as connu Steve à Toronto, qui avait passé 15 ans à Derby County, qui est venu comme mon assistant. Steve est arrivé avec format anglais où lui, il fallait faire une séance les jambes, une séance les bras et une séance de prévention. Alors que moi, mon concept, c'était plus de mélanger tout le temps. Et ça passe en MLS. Par contre, si tu arrives en Angleterre, tu ne peux pas te permettre de pas faire, de pas adhérer à ce concept. Un peu comme les joueurs français tiennent au fractionné, les Anglais tiennent. Et quand je te dis Anglais, les clubs anglais, hein, parce que moi, ce que j'adore là-bas, c'est que c'est des rosters internationaux. Ça vient de cosmopolite, ça vient de partout dans le monde. Mais le cadre est tel que, c'est pour ça, Seb, tu me diras, c'était comme ça, c'est que tu as ta séance de jambes, lourd, hein, attention, hein, lourd, hein, mais ça n'a rien à voir avec ce que je faisais à Toronto, au Galaxy, c'est un peu plus. Et ta séance de haut du corps, et je pense, c'était en plus exacerbé à Leeds, parce que, ils sortaient de 4 ans, et c'est de Bielsa, et ils avaient un effectif qui était fait pour le boulot, quoi. C'est un peu comme. Et moi, j'arrivais avec un coach Red Bull qui eux aussi sont en gros recrutent en fonction des critères physiologiques des caractéristiques physiques et physiologiques du joueur. Donc pour répondre à ta question, c'est aussi quelque chose qui peut jouer soit en faveur à défaveur d'un joueur, c'est-à-dire que maintenant avec le big data et tout ça, si t'as des clubs qui ont un style de jeu bien établi, et Red Bull c'est le cas. Je pense que avant de te signer, s'ils te signent, c'est qu'ils pensent que tu peux vraiment voilà.
Pour identifier déjà. Ouais.
Alors Seb, raconte-moi Seb.
Non, c'est avant. C'était l'Angleterre. Tu vois, quand je suis arrivé en Angleterre, moi c'est marrant parce que quand je suis arrivé, j'étais en France, j'avais fait la pré-saison avec Metz. Je sortais d'une pré-saison avec Metz et je vais en essai. Bref, pour la petite histoire, on s'en fout de ça, mais je vais en essai pendant la pré-saison parce qu'en Angleterre, on reprend après. Donc moi j'avais commencé ma pré-saison, j'étais parti voilà en forêt, j'avais fait voilà, on avait commencé beaucoup de foncier.
C'est à l'époque c'était la méthode allemande, c'était inspiré de l'Allemagne, cours et puis ça va te former le mental parce que tu cours.
C'est long et c'est fastidieux. J'arrive en Angleterre, tu parlais de mental, moi vu que je viens en essai, je m'adapte à tout ce qu'on va me proposer. Et là on fait une séance à haute intensité. Et moi, je veux vraiment, vraiment prendre part à la séance. Et Kevin Keegan, à l'époque, il me dit, tu sais quoi? Il voit que je souffre. Il voit vraiment que je souffre, même si je suis jeune et je suis déterminé, je veux pas le montrer. Au bout d'un moment, il a l'œil, les physios, enfin, le sport scientist, il lui dit, attends, le petit, et il me met sur le côté. 2008. Okay. Et il me met sur le côté. Il me dit, tu vas pas, t'as fait le premier bloc, tu fais pas le reste. Et je lui dis, non, j'ai envie. Enfin, avec mon anglais cassé, je lui dis, ouais, broken English, là. Je lui dis, non, j'ai envie. Il dit, non, ici, c'est pas la France où vous allez en forêt, vous courez comme ça. C'est ça qu'il me dit. Il me dit ça. Mais c'est pas la France. Ici, c'est du box to box. Tu vois comment ils sont, les Anglais, très, très chauvins aussi de dire que, ouais, nous, on n'est pas la France. Là, parce que j'ai failli vomir. Et en fait, je vois ce que c'est. Je comprends et je vois l'intensité à l'entraînement. Mais oui. Et après, je comprends pas parce que on me dit, je vois pendant la séance, on me dit, ouais, là, aujourd'hui, vous allez faire haut du corps. Mais on fait haut du corps et le mec, il tape à l'époque, vraiment, muscu. Pas, muscu, haut du corps et tout. C'était à Newcastle. Je vois, et les mecs, en fait, c'était une culture. Je voyais des gens, ils venaient créatine, tu vois, et sur les steaks le matin. Et enfin, vraiment, cette culture de, ouais, il faut être fort. Et moi, avec mon wiring, ma programmation, moi, tu m'envoies pas en salle de gym faire du haut du corps. Et c'est là où ils me disent, vu que t'es trop frêle, on va te mettre en cure de créatine. Et tout. Non, mais je tiens au duel. Non, dans leur tête, mon agressivité naturelle, ma force naturelle, c'est pas assez. Il faut qu'il ait un bras, tu vois, un peu plus costaud. Et ça. Et là, j'aimais une résistance. Je vais pas à la gym. Moi, j'aime pas aller à vos histoires de muscu. Enfin, dans l'excès. Là, ça commence déjà dans ma tête. Mais bon, je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait et je pense que tu parlais de médical, ça a déréglé mon système immunitaire. Déjà, la créatine, le fait d'avoir pris un certain... Ça a déréglé...
Tu sais que la créatine, moi, quand j'étais à UVA en 2000, donc en 99, ma première saison en tant qu'observateur, hein, j'étais bénévole hein, avec ce mec, avec une pointure de la prépa physique, nommé préparateur physique de l'année en NCAA en 99. Donc, les joueurs foot américains, là, c'est pas les mêmes gabarits. Hein, donc là, c'est un peu comme les os. Hein, tu les gars, il faut qu'ils prennent du poids, du muscle et tout. Et moi, je leur disais, mais vous savez qu'en France, la créatine, c'est interdit, hein, parce qu'il n'y a pas d'études, à long terme sur le foie, notamment, etc. Hein. Et finalement, la NCAA a interdit la créatine 2 ans plus tard. Donc là, et toi, par contre, t'es en 2008 en Angleterre, et tu vois, moi, j'ai jamais utilisé la créatine.
et ils veulent
dans mon métier jamais nulle part.
Ils me forcent à faire ça. Et comme tu dis, pour répondre à ta question, oui, à l'époque là, on fait beaucoup de séances physiques, mais vraiment bien ciblées. Et vraiment, on va courir là, on va faire les jambes. Mais comme tu dis, franchement, les jambes, laisse tomber. Non. Moi, je suis jeune, je peux encaisser et je suis, comme tu l'as dit, c'est super important de le préciser. J'ai adhéré parce que psychologiquement, j'ai envie de passer. Mais, et je suis jeune. Au final, mon disque dur, il est pas très rempli. Donc, au final, tu peux le formater.
Ouais.
Et j'ai pas de prérequis. J'ai fait un peu de professionnalisme à Metz et tout, mais je suis un jeune. Donc, tu peux modeler comme t'as envie. Et avec les années, je l'ai vu l'évolution où ta méthode, elle a commencé à devenir un peu plus à la mode, où il mélangeait un peu tout, tu vois. Pendant les séances, il commençait à mélanger. Il y avait plus de séances ciblées haut du corps, juste bas du corps, etc. Parce que, voilà, ils sont ouverts. Je pense qu'ils sont ouverts à d'autres mentalités.
Voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est que toi, t'as fait un paquet d'années à Tottenham, c'est ça? Après, je sais pas, moi, j'ai jamais eu le privilège de bosser dans des grands clubs. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Je pense que, tu vois, suivant le profil des joueurs, suivant le statut, j'imagine que peut-être, un peu comme les US voulaient beaucoup bosser physiquement pour dominer physiquement parce qu'ils avaient peut-être pas des noms, je sais pas si ça bosse de la même manière ou autant, voire de manière, parce que je sais que tu vas prendre un Ronaldo à Manu, je sais, parce que j'ai visité, je les ai vus. Individuellement, t'as des joueurs qui vont mettre plus ou moins le curseur du physique, mais en tant que club, je sais pas comment ça se passe dans les gros clubs. Moi, j'ai fait que des clubs où il y avait pas de place pour, c'était un troupeau et il y a pas un mouton qui sortait, c'était tout le monde, parce qu'il y avait des cadres qui étaient en charge de la discipline et ça bossait dur et.
Non, moi, à contrario de Seb, c'est que moi, quand j'étais à la Roma, c'est moi, quand je suis arrivé, pareil, je suis arrivé à 20 ans, donc j'étais pas encore. 2006. Donc, c'était juste après l'Italie championne du monde, tout ça, en plus l'Italie un peu encore au top. Donc, forcément, il y avait cette dimension physique qui était très importante en Italie, en Serie A. Et justement, moi, quand je suis arrivé à la Roma, à contrario, j'étais pas encore fait physiquement, mais ils ont refusé de me donner cette cure de créatine. Là-bas aussi, hein, la créatine, vachement démocratisée, tout ça, autorisée en club. Mais moi, ils m'ont toujours refusé de m'en donner. Parce qu'ils voulaient que je garde un peu ce côté un peu dynamique, malgré ma taille, malgré aussi mon gabarit. Ils voulaient pas que je prenne trop de poids, justement. Donc, moi, j'ai jamais eu recours à ça. Donc, c'est pour ça qu'on revient un peu à ce que tu dis. Je pense qu'au niveau des grands clubs, c'est plus individualisé.
Non, c'est très
individuel. T'as beaucoup parlé par rapport à toi, mais par rapport à Tottenham, c'était comment?
À Tottenham, même après, franchement, c'était très individualisé. Ils ont commencé à comprendre qu'on n'avait pas les mêmes besoins et qu'on était fait différemment et que en fonction du head manager, quand on avait Harry Redknapp très à l'anglaise, à l'ancienne. Donc au final, il va te laisser les physios, etc. Et le Sam, qui est après parti à Man City, le physio, enfin, le sports scientist, head of sports science, il essayait de vraiment d'individualiser et il a démocratisé un peu. Mais comme, on va dire, le coach, il s'en foutait un peu, lui, il voulait juste ses joueurs prêts, etc. Donc, je pense que ça l'a décrédibilisé. Et je voulais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu as vécu, surtout dans les clubs, moi, je parle ici, en Angleterre, aux États-Unis, je sais pas, ce côté où vous êtes vraiment ceux sur qui on va taper? Parce que franchement, je te dis la vérité, nous, les sports scientists, on voulait les bullies. C'était vraiment les mecs, s'ils avaient pas vraiment le soutien du coach, tu vois, ça devenait les mecs, quand ils disent quelque chose, tu cherches toujours à, je sais pas, t'embrouiller.
Des boucs émissaires, quoi. Des boucs
émissaires, ouais.
Ouais. Alors, j'appelle ça les fusibles. Non, alors déjà, t'as parlé un truc très, très important. Le gars qui est en charge, c'est le coach. D'accord? Donc ça, et pour en venir à la question de description du job de quand Quentin me posait la question, moi, je me trouve toujours entre le staff technique et souvent le coach et puis mon staff. D'accord? Donc souvent, et c'est ça qui est difficile, je défends avec mon staff, tu vois, je défends le staff technique, et avec le staff technique, je défends mon staff. C'est l'avocat du diable, tout le temps. Parce que sinon, t'as des vues opposées, et chacun voit midi à sa fenêtre, et puis on se rend pas compte. Je dis toujours, pour être un bon prépa physique ou un bon directeur performance, il faut avoir mis son cul il faut avoir été entraîneur et mis son cul sur un banc et savoir la pression que subissent les entraîneurs. Et pour être un bon entraîneur, il faut comprendre que t'as des gars en bas qui passent leur vie à essayer que les joueurs soient pas blessés, tu vois, et qui des fois on les boule parce que les joueurs se blessent et ils pensent que c'est évitable. Donc ça c'est important. Alors ta question, c'était encore quoi? J'ai déjà oublié, merde.
Si vous étiez les fusibles, si vous étiez.
Ah d'accord. D'accord. Ouais. Alors de toute façon, ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend du management. Ok. Moi, les problèmes de l'avantage, j'aime bien avoir un staff élargi. Pourquoi? Parce que sur un effectif, et je vais pas nommer de nom, hein, parce qu'il y en a qui sont très célèbres, des Français, qui ont réussi dans les grands clubs. Sur un effectif de 20-25 joueurs, c'est pas possible que tu t'entendes de la même manière avec les 20-25. Enfin, c'est possible, mais moi, je suis un matheux, donc je crois aux statistiques. Et moi, ce que j'aime avoir, c'est que si possible, dans mon staff, eh ben, il va y avoir un membre du staff qui va avoir une relation privilégiée avec 3, 4, 5 joueurs. Et je sais pas pourquoi, hein. Ça peut être parce qu'ils viennent du même endroit, parce qu'ils aiment la même musique, je sais pas. En tout cas, pour que, but du jeu, c'est que tout l'effectif soit couvert et que tu optimises les chances que chaque joueur réponde de manière positive à un coach. Donc, le byproduct de tout ça, c'est qu'il y aura pas trop de bullying parce qu'ils s'entendent bien et les choses soient claires. C'est l'avantage des staffs élargis. L'inconvénient des staffs élargis, c'est que forcément, plus t'as de monde, ça, tu veux pas que ça devienne une armée mexicaine et que pour tout le monde soit sur la même longueur d'onde, c'est un peu difficile. Donc, d'être infusible à ce niveau-là, que les joueurs soient un peu rebelles avec certains, fuck it, you know, on a perdu, va dégager. Moi, c'est ce que j'essaie d'éduquer. Maintenant que j'ai 52 ans, j'essaie d'éduquer parce que je me vois quand j'avais 28 ans avec la queue qui remue un peu comme un chien, tu vois, et t'as l'impression que ce que tu fais, si jamais tu fais pas 10 montées de genoux, t'en fais que 8, tu vas perdre le week-end. Et t'as beaucoup de préparateurs physiques qui sont comme ça. Ils pensent que leur job, c'est 90% du résultat. Moi, je leur dis, relâchez-vous, on est tous ensemble, on est une partie du puzzle. Et l'art de coacher, d'être capable de, c'est un tug of war en anglais, tu vois, c'est le tir à la corde. T'en donnes un peu et de temps en temps tu tires et t'en donnes et tu tires de ce juste équilibre. Donc, j'ai pas eu de problème de mon staff être bullé, de être un peu le fusible. Par contre, moi, je leur dis toujours, le fusible, c'est moi. Je dis, vous en faites pas. Et je l'ai répété. Ça, même à Toronto, je peux dire que je l'ai dit à peu près 10 ou 15 fois. Parce que les membres du staff médical ou physique ont justement peur d'en faire trop ou pas assez, de la perception des joueurs, de la perception des coachs. Et moi, ce que j'essaie, c'est d'avoir une relation justement de confiance avec le coach. Et je leur dis toujours, les gars, on a des réunions ensemble. Tu penses ça, je valide, fais-le. Si jamais ça se passe mal, je te couvre, je prends pour moi. Si jamais on veut s'entraîner, on a... Exemple, un joueur qui dit « ouais, je vais pas faire ça » parce que le problème de sport science de nos jours, c'est que le problème des GPS, du load, tu vois, du load management, la charge de travail, c'est que maintenant on regarde les data, charge de travail, machin truc, et le réflexe de Pavlov, réflexe naturel, tu vois. Le réflexe de Pavlov, c'est ce que tu fais au docteur, tu sais, quand tu tapes sur le genou, l'attaque, et le genou fait ça. Donc le réflexe naturel, c'est « oh là, on est fatigué, il faut en faire moins. Oh là, on est en blessé, il faut en faire moins. » Donc en gros, c'est de réduire la charge. Alors qu'en fait, il faut toujours trouver l'équilibre entre réduire la charge, mais aussi augmenter la capacité de réaction à une charge. Tu vois. Et donc, si tu fais pas de travail, tu vas pas devenir mieux à supporter le travail. Donc, et donc, moi, je dis, mais allez-y, et si jamais ça se passe mal, je prends, c'est moi. Et je vous cours, c'est moi qui valide. Et si jamais vous avez un problème avec un joueur ou quoi, je serai là si vous voulez de moi. C'est important.
Je voudrais illustrer pour nos auditeurs, parce que nous, on parle, pour nous, ça coule de source. Mais je voudrais illustrer le cheminement d'un joueur quand il arrive le matin à l'entraînement, tout ce qui est mis en place de nos jours. Parce que tu vois, à Toronto, sous Pierre, on arrivait le matin, 2 heures avant l'entraînement, 1h30, 2 heures avant l'entraînement, on montait sur la balance, on était pesé, on disait comment on avait dormi. Tu te rappelles, tu sais, il y avait un iPad où tu as plusieurs questions. Comment tu as dormi? Comment tu te sens? Est-ce que tu as un trauma quelque part? De 0 à 10, combien il te fait mal? Donc, déjà, tu envoies toutes ces informations à la partie kiné et bien sûr à toi, au secteur performance. Mais tu petit déjeunes, tu reviens, tu vas en salle, tu as l'activation, tu as ceux qui préfèrent. Moi, je préférais faire la muscu le matin. Donc, si je faisais mes séances de muscu, je les faisais avant. Peu importe, tu as l'activation, tu as tout ça. Et ensuite, tu arrives sur le terrain. Tu sors, on te met un GPS, hop, tu vas sur le terrain, donc tout est calculé. Et ensuite, t'as Pierre ou son assistant qui a un iPad et qui vérifie le load management, la quantité, l'effort, en fait, effectivement. Et donc, du coup, il y a des rouges, il y a des clubs. C'était pas vraiment le cas avec vous, mais par exemple, nous ici, des fois, Atlanta, le coach, il tourne la tête. Quand on est au bout de 5 minutes d'opposition, qu'on a dit, allez, on fait 2 fois 4 minutes. Après 4 minutes, il fait un grand, là, là, là. C'est fini. Ça veut dire que t'as quelqu'un sur son iPad qui te dit, c'est terminé. Parce que les chiffres, comme tu dis, Pierre, te font dire que ça y est, il y en a trop qui ont dépassé le seuil d'effort, qui sont dans le rouge. Et donc, du coup, on t'arrête. Ma question, c'est, avec tout ça, est-ce que trop d'informations de temps en temps ne tue pas l'information et comment tu fais pour process tout ça? Parce qu'après, bien sûr, tu rentres, il y a le côté nutrition, le côté combien de temps tu passes aux soins, ce que les kinés te disent, le retour sur l'entraînement. Et ensuite, les minutes jouées. Quand tu rentrais dans le bureau de Pierre, t'avais une case avec tout le monde, avec tous les matchs, et t'avais les minutes, si t'étais remplaçant, si t'étais blessé, t'avais un suivi dans son bureau où il y avait vraiment l'année passée au crible de chacun des joueurs à la minute près.
Ce qui est marrant, c'est que ça n'existait pas en Angleterre. Je l'ai mis en place, ils ont adoré.
Garde ta question. Alors, garde ta question, Ricky, c'est beaucoup d'informations. Garde-la.
Bon, okay,
garde-la, réponds d'abord, Pierre.
Okay, j'ai encore deux questions vraiment importantes que je veux...
Ricardo, je vais faire court. Je vais faire court, tu vois, je n'oublierai pas.
De cube, mais tranquille.
Je vais faire court, très court. Est-ce que trop d'informations tue d'information? Non, je pense pas. C'est-à-dire que l'information est toujours utile. Par contre, c'est ce que t'en fais. C'est toujours pareil. Donc, moi, très sincèrement, les 2 fois 4 minutes où il faut tout arrêter, j'en viens à vous. Pour moi, ça, dans mon esprit, ça me donne l'exemple du gars qui veut faire 10 montées et t'en fais 12. Moi, je trouve ça, si c'est suivi par un travail individuel, tu vois, où tu te dis, bon, ok, lui, il en a eu trop, lui, il n'en avait pas assez. Je veux bien, mais moi, je donne des recommandations au coach. Donc, si c'est vraiment un exemple de 2 fois 4, je serai jamais à dire il faut vraiment arrêter maintenant parce que je trouve qu'on a été un peu on arrive un peu dans l'excès à ce niveau-là. Par contre, attention, on en revient à la relation privilégiée entre le directeur de la perf et le coach. Il y a des coachs, Jesse en est un, Jesse March avec qui je suis, qui a sa propre méthode de quantification qui est basée sur un autre chiffre, tu vois, on appelle ça KPI. Key Performance Indicator, c'est un algorithme en gros qui va compiler un peu tout ça, et lui, il a, dans ses séances, dans sa quantification, il va faire aujourd'hui la séance, ça va être 1000, tu vois, c'est pas pour donner l'idée, ça va être 1000, et parce que ça fait partie de sa méthode.
Un peu comme des arbitraire un peu, non?
Des UA, mais enfin ça dépend des marques, en gros ça dépend des marques de GPS. L'algorithme est un peu différent. Donc lui, il est un peu plus habitué StatSport, on a dû convertir ça à Catapult quand on est analyste, et lui, par rapport à sa méthode, il a une équipe qui peut courir. Il a une équipe qui, en gros, par rapport au profil, qui fait un paquet de sprints, et il n'y a pas de blessé. Donc lui, il a besoin de quelqu'un qui lui dit, on en est où là? Ok, 800, 900, ok, 1000, bam, bam. Donc, c'est un head coach qui fonctionne beaucoup par ça. Et donc là, bah, pas de problème. Mon staff est là pour lui donner ce qu'il a envie.
Il est américain.
Non, parce qu'en fait, sa méthode, il l'a développée. C'est vraiment la méthode Red Bull, quoi. Donc, il n'y a pas des coachs Red Bull. Le Red Bull Coaching Tree, il y en a 20.
Il optimise.
C'est toujours pareil. Ça, c'est une méthode prouvée qui a porté ses fruits. Il sait qu'il n'aura pas de blessés. Il sait que les gars vont courir. Je te dis, à Leeds, on était numéro 1 en première ligue dans 9 des 10 KPI. Et donc, une méthode complètement différente de Bielsa avec le même résultat. Jesse avait beaucoup moins de blessés, par contre. Donc, ça, c'est important. Mais tu avais des joueurs qui, eux, voulaient peut-être à l'entraînement, sentir les effets de la méthode Bielsa, où si tu gères pas, ça va pas, ou si t'as pas un blessé ou deux, parce que tu fais murder ball, c'est marquage individuel pendant 45 minutes le mercredi, il manque quelque chose. Donc, tu vois, c'est toujours très intéressant. Mais, à l'heure actuelle, partout où je vais, je demande au coach, si je le connais pas, je pense que ce sera plus trop le cas maintenant dans ma carrière, quelle est sa méthode, quels sont ses points de vue, et je m'adapte à lui. Ce qui pose problème des fois avec le staff médical qui me dit « Oh, comment ça se fait ? C'est eux qui doivent s'adapter à nous. » Non, 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 non. C'est lui le boss. C'est lui qui va se faire virer. D'accord ? Et c'est lui le chef. Donc, il faut qu'on bosse en harmonie.
Ricky pose sa question.
Pour compléter un peu tout ça, c'est super marrant parce que là, on parle un peu big data, tout ça. Et tu sais, moi, je fais aussi... je passe un diplôme de master en management. Ça s'appelle MIP avec l'UFA. On a une masterclass, un panel avec Comoli, Damien Comoli, qui est à Toulouse, et comme ils sont très data-driven, à 100%. Mm-hmm. 110% même. Et justement, il racontait une anecdote par rapport à un match. En fait, bon, il était assez bien, Toulouse a gagné des matchs. Et il y avait un match le samedi. Et lui, il était pas au courant, parce que comme il est un peu chairman déjà, lui, en fait, il s'occupe de tout. Hein. Il regarde les matchs après, il est vraiment pas... Tu le connais, je pense que tu connais même mieux que moi.
Je le connais très bien, à l'époque, de justement, depuis son époque Tottenham. Donc,
Tottenham, ouais, c'était même avant-gardiste au niveau des datas. Et du coup, Toulouse gagne ce match. Alors, il aurait un prépa physique qui aurait dit aux joueurs, si vous gagnez ce match, ils étaient off, de toute façon, le lundi, vous êtes off aussi le mardi, donc reprise de mercredi. Donc, ils gagnent ce match, ils perdaient, ils gagnent à la mi-temps, enfin, ils gagnent tout ça. Et comme ils n'étaient pas au courant. Et donc, ils voient le planning de la semaine, ils voient genre lundi off, mardi off, reprise mercredi. Et donc, il appelle son sport scientist, je sais pas si on dit ça, ou le chef de data, des data.
Il dit, je connais Toulouse.
On en parlera justement. Il lui dit, mais c'est toi qui as donné le jour off du mardi? Il a dit non, c'est le coach, parce que c'est pour récompenser les gars, tout ça, comme ils ont fait une victoire, je sais pas. Il a appelé, fait, tu remets l'entraînement du mardi tout de suite. Ouais, non, mais c'est pas bon, ça se trouve, ils ont pris leur billet de train, il y en a qui sont partis. Il a fait, je veux rien savoir, ils reviennent à l'entraînement le mardi. Parce que ils voulaient pas, tu vois, avoir ce petit décalage qui fait, comme tu parlais de quantification et réduction, enfin, tu sais que, bon, j'ai pas les termes exacts, mais ils voulaient pas les laisser deux jours off parce que c'était pas forcément une bonne récup pour eux, en fait, pour le prochain match qui venait d'y arriver.
Après, oui, bah, moi, je suis pas dans les data toulousains, mais encore une fois, ouais, alors, je sais pas. Moi, ça me semble un peu extrême, très sincèrement. Ça dépend de, est-ce qu'on parle du mois de mai? Est-ce qu'on parle du mois d'octobre? Tu vois, qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas. Je peux pas dire. Mais en attendant,
De l'Europa League, donc ça devait être là durant la saison. En fait. Voilà,
on en revient à. Alors là, c'est encore intéressant ce que tu dis, parce que c'est même pas un coach, c'est un directeur sportif, un peu tout. Damien fait tout là-bas, qui a cette méthode. Donc tu dois penser certainement que ce directeur sportif va recruter un coach à son image, parce que c'est Redbird. Donc si jamais c'est un peu comme Brentford en Angleterre, Brentford, Michelin. Thomas Frank, et la façon dont il joue, c'est uniquement basé sur les datas. Donc, que ce soit n'importe quel club, n'importe quel modèle, il vaut mieux que le coach et le directeur sportif soient à la même longueur d'onde. Et après, en découle le prépa physique.
Et tu sais, Pierre, tu parlais précédemment d'adaptabilité, et ça, c'est encore un exemple, là, que le coach et le... Mais nous, on aime beaucoup en parler aussi sur ce podcast, dire une des qualités premières d'un footballeur, c'est de savoir s'adapter à son environnement. Moi, je me rappelle, tu vois, quand on était ensemble, tu venais d'arriver à Toronto et c'était encore Canada sous Covid. Tu me disais, ouais, je donne des footings à faire aux Américains, ils le font. Les Canadiens, vu que t'étais censé être en quarantaine, ils le faisaient pas. Enfin, tu vois,
j'ai oublié tout ça.
L'adaptation culturelle et tout. Tu sais, c'était compliqué au début et encore plus pendant le Covid. Je pense que tes valeurs refuges, elles font surface fois 100. Peu importe. Ouais. Moi, je voulais te demander, en tant que directeur de performance, at the end of the day, comme on dit, qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est d'arriver dans une équipe où tout le monde, tu vois, comme à Leeds, où tout le monde était déjà câblé pour bosser comme des fous. Et donc, du coup, tu dis, c'est un panard pas possible, j'arrive et on peut tout de suite mettre ma méthode en place. Ou au contraire, arriver dans un environnement un petit peu hostile et réussir à faire appliquer ta méthode à des gens qui, initialement, sont peut-être un peu plus latins, comme tu disais, ou un petit peu plus, tu vois, câblé un peu moins, tu vois, un peu moins effort et un peu plus, on est des artistes, tu vois.
Réfractaire à Asferman.
Ça va être très rapide. Dans un monde parfait, je prends l'option B. Forcément, d'arriver, de marquer ton empreinte et que tu aies un impact fort sur un groupe qui, de 25 joueurs et qui te disent, waouh, finalement, putain, qu'est-ce que c'est bien. Mais ça, c'est pas possible. C'est terminé. On est tellement liés. C'est tellement une culture de résultat que tu gagnes, tu restes, tu perds, tu t'en vas, et des fois tu gagnes, tu t'en vas. Donc, t'as le temps et l'essence, quoi. Et t'as jamais le temps de bosser. Même certains clubs où, par exemple, on va prendre l'exemple de Toronto, où tu vas dans un club. Et c'est vrai qu'il y avait le challenge du Covid. J'avais oublié toutes ces histoires-là. Même au niveau médical, il y a des traitements médicaux au Canada sont complètement différents, l'approche médicale, qu'aux États-Unis. Bref, donc tu vas dans un club comme ça où il y a une structure avec un gars qui est directeur de la perf, JB Liston à l'époque, qui ouvre aussi le medical, qui ouvre aussi le role department, donc il recrute quelqu'un pour faire ça. et ils te disent, toi, tu bosses pour le club, et c'est vrai, des grosses structures, des gros moyens, MLSI, pour ceux qui connaissent pas, c'est les Raptors, c'est les Maple Leafs, c'est des vraies organisations avec des data scientists, en veux-tu, en voilà, tu peux construire une plateforme, enfin, tout. Donc, tu bosses pour le club, t'as tes gens qui bossent pour le club, et théoriquement, tu te dis que quels que soient les résultats, tu pourras rester si ton job est bien fait au niveau de la structure performance. C'est ce qu'on m'avait dit au Galaxy. Et au bout de 2-3 ans, finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre. J'arrive à Toronto, j'ai totalement confiance au GM. J'ai vu déjà 3 coachs quand je décide de partir au bout d'un an et demi où il me reste encore 3 ans de contrat. Parce que aussi, dans le creux de ma tête, je me dis qu'un jour ou l'autre, tu es complètement dépendant des dirigeants, de leur volonté de dire, moi, j'ai ce gars-là. Avec toute sa structure, ça marche très bien et on la garde. Et je ne veux pas compromettre ça, quel que soit le coach. Et si tu regardes ce qui s'est passé à Toronto, je suis persuadé que si j'étais resté à Toronto, donc là, 3 ans plus tard, il y a un nouveau coach qui emmène son directeur de la perf qui serait pas venu sans lui. Et le directeur de la performance aurait dégagé. Donc voilà, t'as beau virer tourner. Maintenant, il faut arriver dans un club, avoir des résultats tout de suite. Sinon, tu dégages.
Et tu vois, dans cette mouvance et dans cet ordre d'idées, t'as fait beaucoup d'endroits. T'as coaché des grands joueurs, t'as entraîné, t'as suivi des grands joueurs comme des joueurs connus moins grands, c'est pas le problème. T'as parlé de monde idéal. Aujourd'hui, pour toi, dans ton idéal à toi d'expert de la performance, de la préparation, c'est quoi un joueur idéal? C'est quoi le joueur idéal? Parce que t'as vu des grands joueurs. Comment il se comporte, etc. Est-ce que tu pourrais décrire un archétype du joueur physiquement, parce que t'en parles, physiquement, qui va, où tu vas dire, lui, franchement, ça va être...
Il est préparé.
Il est préparé et ça va être ça peut être, il y a de fortes chances que ça soit il fasse vraiment, tu vois, une grande carrière parce que, est-ce qu'il y a des aptitudes physiques où tu dis, ouais, il faut qu'il ait ça. Il faut qu'il ait, parce que, j'ai beaucoup entendu beaucoup parler de choses comme ça. Et moi, je suis un fervent supporter de cette pensée qu'à un moment donné, certes, il faut du talent, mais physiquement parlant, il faut certaines aptitudes qui te permettent d'aller au plus haut niveau et sur une durée. Est-ce que tu peux me parler de ce joueur-là et donner un nom?
Ouais. Ah, donner un nom, ça va être difficile, mais ce que je vais dire déjà, c'est que, par exemple, tu as besoin maintenant de qualité physique. Jusqu'à une certaine époque, certains joueurs pouvaient exister sans des qualités physiques hors du commun, voire en dessous de la normale. Je prends l'exemple d'un Riquelme. Je pense qu'il y aura plus de Riquelme de nos jours. Tu vois. C'est terminé, ça. Et d'ailleurs, moi, qui bosse toujours pour la FIFA, avec Arsène Wenger qui est en charge du... Lui, il dit très bien que la différence du foot maintenant par rapport à il y a 10 ans, c'est que maintenant, les joueurs sont des athlètes. Et avant, athlète au sens anglais, c'est-à-dire des gars qui ont vraiment des qualités physiques, alors qu'avant, il y avait un peu de tout. Maintenant, c'est plus possible. Donc, le joueur, pour moi, idéal, le joueur qui est le mieux équipé pour réussir de nos jours, il faut qu'il soit explosif. Il faut qu'il ait une capacité de course. En gros, j'ai dit, il faut qu'il puisse courir vite et longtemps. Hein. Et il faut qu'il ait de l'explosivité. Donc, voilà. Combien de joueurs j'ai vu qui avaient ces 3 qualités, plus le cerveau et plus l'approche professionnelle?
Haaland,
exemple, parfait, Haaland. Jesse a coaché Haaland. Haaland, voilà, il est programmé pour ça. Donc, il dévie pas. Moi, à l'époque, le joueur qui m'a le plus impressionné, et pourtant, physiquement, ça va pas vous parler, c'était un gars qui jouait pour les US, il s'appelait Landon Donovan.
Qui tu ne vas pas nous parler? Attends, comment tu nous respectes?
On va pas parler aux auditeurs?
Pierre, j'ai fatigué les gens avec la sélection américaine. En 2002, on était encore à Clairefontaine quand on voit l'opportunité. Je célèbre dans le bâtiment INF. Hein.
et tu vois, c'était deux profils parce qu'à l'époque, j'avais Landon. J'aime pas le terme gourou parce qu'il y a.
Oh, Landon, hein.
Il était petit, il était trapu, mais il était explosif à la course. Personne pouvait courir plus vite. La différence, c'est qu'il était, il allait à 2000 à l'heure, avec ou sans ballon, il n'y a pas de différence. Tu sais pas, il allait à la même vitesse, balle au pied, sans ballon. Mais surtout, il avait, techniquement, c'était fort, hein, c'était très fort. Mais mentalement, c'était l'américain. Il était parti, ballon d'or à 17 ans. Je pars à Leverkusen. Et il m'a dit non, moi, je veux rentrer aux US. Ouais. Il arrive aux US. Il m'a même proposé de me donner un salaire pour que j'aille habiter avec lui en Allemagne, quand ils l'ont rappelé. Mais donc lui, physiquement, il avait tout. Il était explosif. Il courait très vite et il pourrait courir pendant 3 heures. Donc pour moi, de nos jours, ce serait ça. Bien avoir la force. Tu vois, on parle de force. Moi, je mettrais pas la force dans la force en termes de body mass, de kilogrammes. Je mettrais pas ça dans l'équation. Maintenant, pour être explosif, la puissance, c'est fort divisé par vitesse. Donc il faut être capable de générer de la force le très rapidement possible pour vraiment être explosif. Mais je dirais pas, voilà, je parlerai pas de corpulence. Je parlerai pas de corpulence. Je parlerai d'un gars explosif et avec des capacités de course très très hautes.
Ouais. Moi, il y en a un qui m'impressionne justement parce que son gabarit, il montre rien de spécial, mais qui est super régulier dans ses performances et aussi explosif. C'est un joueur comme Moussiala à Munich.
Ouais. Voilà.
Il est frêle, pourtant il tient sur ses jambes. Les répétitions qu'il fait, le dribble, l'explosivité qu'il a. Après, c'est aussi lié aussi à sa coordination et à son talent, bien sûr. Mais physiquement, il est super intéressant et ce qu'il fait à son âge, c'est super fort. Alors oui, il est éclipsé par Harry Kane là-bas, il est éclipsé par Bellingham aussi, parce que c'est le jeune talent, Bellingham. Mais Moussiala, il est extraordinaire, ce petit.
Après Moussiala, et puis Moussiala, on le voit en tant que jeune, ça fait quand même un bout de temps maintenant qu'il est Moussiala. Ouais. Donc moi je vais pas tarder à aller au Bayern parce que l'adjoint de Leeds est maintenant directeur de la méthodologie au Bayern. Il entraîne aussi la réserve et la Youth League, c'est deux équipes différentes. Donc je vais aller voir ça. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Et après t'as des. Alors on associe l'explosivité. C'est vrai que souvent t'as des joueurs qui sont super explosifs qui sont frêles. Parce qu'on en revient, c'est un rapport poids puissance. C'est comme au cyclisme. Et après il faut que ces joueurs soient capables
de créer des
blessures. Non, alors, je ne parle même pas du football, on parle que du physique. L'autre exemple, ça va être un Dembélé qui avait qui était très noué des deux côtés, qui est explosif, mais bon, qui n'était pas. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais je suis à peu près sûr que tout ce qui se dit est vrai ou l'entraînement invisible n'était pas au top, on va dire. Et donc, il a eu toutes ces blessures qui l'ont un peu retardé. Là, depuis qu'il est au PSG, il n'est pas blessé. Est-ce qu'il est capable de faire, moi j'appelle ça la puissance, les chevaux du moteur et t'as la capacité du réservoir. Est-ce qu'il a un réservoir tel pour faire des allers-retours pendant 90 minutes si le jeu le dicte? Ça, j'en sais rien, mais pour moi, ce serait ça le joueur idéal. Avec une approche pro, pour en revenir à Landon Donovan, en 2002, le mec, il me laissait pas dormir, il m'appelait, Pierre, j'ai fait 6, alors j'ai couru 4 kilomètres, est-ce que j'aurais dû faire 4-5? Non, ton programme c'était 4. Et il était vraiment comme ça, mais droit comme la justice. Et j'avais un Brad McBride, ça va peut-être vous parler, qui est à l'époque jouant. Et lui, il avait génération différente de Landon, par contre même approche. C'est-à-dire, il avait 32, 33 ans à l'époque, pro comme jamais. Et, les deux fonctionnaient en binôme, et c'est marrant parce que tu avais pu voir le plus jeune. Mais ils avaient la même approche du travail et du foot. Et bon, il y a beau virer, tourner pour que ça. Bah, Q, c'est un exemple. Hein, Q est dur. Et
j'allais dire, on y arrive. On est dans BMC. Parle-nous de Quentin Weisberg.
Alors, Quentin, j'allais dire, c'est un exemple parce qu'il a son approche. Il est pro. Il fait ses choses. T'as pas à te dire. T'as pas à demander à ton adjoint, Quentin, tu l'as vu aujourd'hui? Il a fait son job. Tu sais à qui t'as affaire. Alors, lui, en plus, c'est un gardien. Les gardiens, c'est encore un. C'est encore une autre sphère. Quand on parlait d'individualiser et d'être capable de connecter avec les gardiens, c'est encore autre chose. Et je parle même pas des entraîneurs de gardiens, c'est des races à part. Mais non, donc Quentin, lui, il était très pro. Je l'avais connu à l'époque quand on m'avait parlé justement d'un joueur qui avait peut-être la double nationalité en France. Donc on s'était renseigné. La première fois qu'il était venu, c'était voilà, on se connaissait à l'époque. Je le connaissais pas au jour le jour parce que sélection et club c'est différent. Par contre, je me doutais bien, je me rappelais que c'était voilà, la personnalité. Une autre phrase d'Arsène Wenger, il dit la première impression est pas toujours la bonne, mais très rarement la mauvaise. Et ça, c'est un truc que j'ai pu vérifier au cours de ma carrière, c'est qu'en général, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais en général. tu es capable de cibler 2-3, alors pas en une journée, mais en stage de 2 semaines, tu es capable de cibler les gens. Donc lui, il m'a toujours paru très très pro et il a décrit sa journée à Toronto. Il est arrivé. Pareil. Est-ce que il aurait pu faire ce qu'il faisait à Leeds? Non. Parce qu'à Leeds, on aurait dit non, toi, ta muscu, tu l'as fait avec tout le monde. D'accord? Moi, mon point de vue, c'est que est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait dans le respect du groupe? Est-ce que le job est fait? Tout le monde comprend? Est-ce que lui, il peut s'épanouir parce que ça l'arrange? Et si la réponse est oui, donc moi, ça me va très bien. D'accord? J'ai un peu plus un style cafétéria, moi. Je veux que chacun, pour responsabiliser les gens, il faut aussi leur donner, l'initiative de se responsabiliser. Donc, si un employé du temps marche différemment pour des raisons X ou Y pour quelqu'un, si tout le monde en est conscient que Quentin va faire sa muscu pré-entraînement parce que ceci, cela, et qu'il l'a fait religieusement toute l'année, et après, évidemment, c'est les performances, on connaît les hormones, si tu performes en plus, parfait pour moi. Mais on va arriver dans des clubs, dans des cadres où ça, il n'y a pas la place pour ça, et donc il faudra... Et moi, ça me va aussi. Moi, mon but, c'est que tout le monde s'épanouisse, c'est que le job soit fait. Et que, si possible, je puisse donner un effectif au coach pour qu'on gagne.
Attends, petite anecdote, juste pour finir sur, parce que, en 2004, quand on
se prend une question, le gars, si c'est possible.
Ouais, mais garde-la. Moi, c'est juste, mais en 2004.
Toi, quand même.
C'est plus pour nos auditeurs, tu vois. Il y a des choses qu'on te dit une fois et qui restent avec toi pour toute ta vie, finalement. En 2004, je me rappellerai toujours, on était en prépa, qualification pour la Coupe du Monde, et c'est la première fois que je rencontre Pierre. Et donc, Pierre fait tous les tests, on fait énormément de physique, et m'a toujours dit, Brad Friedel, 40 ans, fail as a fellow. Il me disait toujours ça. Et cette expression, pour moi, c'est Pierre. Et donc, du coup, gardien, je me disais, donc, il est fit. Moi, j'ai toujours voulu être super fit. Et je me rappellerai, tu nous avais fait la masse grasse au bord d'une piscine, et t'avais dit, toi, t'es pas un gardien. Tu sais, t'es physiquement, tu m'as dit, t'es pas un gardien. En 2004.
Un numéro 6, hein, un numéro 6.
Encore, jusqu'à, numéro 10, en vétéran. Tu vois, en vétéran, je serai numéro 10. Mais ce que je veux te dire, c'est que je me préparais comme un joueur de foot en off-season. Tu vois, comme un joueur, je faisais du foncier, parce que, en fait, à 18, 19 ans, on m'avait validé cette approche et je l'ai gardé toute ma carrière. C'est-à-dire que quand Pierre revient, c'est vrai qu'en plus, je te l'ai jamais tellement dit, ça, Pierre, mais toutes mes off-season, j'avais Pierre qui me disait, t'as pas la masse, t'as 6 ou 7% de masse grasse pour un gardien, c'est top. Tu vois, j'ai jamais
vu ça. Dire, ça me va très bien. Attention, ouais, que ce soit clair.
Et tu vois, et donc, du coup, j'avais dit, moi, ça fait partie de mon identité. Tu vois, c'est un truc de plus que t'ajoutes à ton identité. Comme on parle énormément sur ce podcast, c'est se connaître, son identité. Une des choses qui m'a validé dans mon identité, c'est quand Pierre Barrieux, face à Quentin Weisberg à 18 ans, 6 de masse grasse. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas commun chez les gardiens. J'ai jamais vu ça.
Alors, excuse-moi, Ricardo, mais
vas-y.
Pas oublier que t'avais levé le doigt. Et non, mais c'est bien parce que il va y avoir cette. Moi, j'ai choisi la prépa physique. J'ai continué à coacher. Attention, hein. Donc on parlait des diplômes avant. Je sais pas si c'était en off ou pas. Mais la dernière fois où j'ai coaché une équipe nationale, c'était donc les moins de 19 des Émirats parce qu'il fallait un coach avec le diplôme. Et bon, depuis, j'ai pu coacher. Moi, ce qui m'a intéressé dans la prépa physique, c'est que on s'occupe d'un individuel en tant que tel. C'est-à-dire que c'est le corps humain, on sait comment il fonctionne. Si jamais cet individu est déterminé et a la volonté, on sait comment optimiser le corps humain. D'accord? Il n'y a pas les arbitres, il n'y a pas le vent, il n'y a pas la météo. Et c'est ça qui m'intéressait, d'avoir des résultats probants, qu'on puisse mesurer. Tu vois? Et il n'y a pas de règle. Et tu vas avoir des gardiens qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis un gardien. » Oui, mais bon, si tu veux être explosif, tu es mieux à 6%. Alors maintenant, il y a des gens qui vont dire que 6% c'est massé, parce que 6% c'est masse essentielle. Alors, ça, entre 6 et 10, on peut discuter, mais tu seras mieux à 7 ou 8 qu'à 20. C'est de la physique. Faut pas chercher à comprendre. Si tu es à 20, tu as 10% dont tu n'as pas besoin, que tu dois supporter tous les jours. Et quand tu veux faire un saut, forcément, tu vas sauter moins vite, etc. Il y a beau virer. Alors, comment tu peux arriver à ce niveau-là? Il y a des choses à faire, mais tu as plein de gens qui vont dire « Oui, mais moi, je suis gardien, moi, ça va. » Ah ben non, parce que toi, t'es un athlète, t'es un humain, t'as un corps humain qui doit faire ce genre d'exercice, et tu serais mieux comme ça. Ça veut pas dire que t'es nul. Attention, hein. Ça veut pas dire que Donnarumma, je sais pas combien il est, mais de loin, je pense pas qu'il soit à 6. Mais je pense qu'il serait mieux à 6. Et Brad, il m'a toujours aidé, c'était magnifique. Parce qu'un Brad Fiddle, quand je suis tombé sur lui, tu vois, c'est pour ça que...
J'ai joué avec Brad, il est
excellent. Mais à l'heure actuelle, il a toujours le record de jours de matchs consécutifs joués en première ligue. J'ai 8 ans et 3 mois. sans rater un match. D'accord? Et le mec, physiquement, c'était, voilà. Alors, on est toujours en contact, on se parle régulièrement, parce qu'il y a eu cette expérience ensemble, mais c'est pas moi qui ai fait Brad Friedel. Par contre, c'est, je l'ai validé. Et parce que j'ai un mec qui arrive en prépa Coupe du Monde, et il court, j'ai six groupes de course, et le mec, il est groupe 1. Et pas devant, parce que j'avais des meilleurs coureurs, mais il aurait pu dire, moi, je suis gardien, fais chier, groupe 1, attends. J'ai assez avec un groupe 3 ou 4. Il a dit, non, moi, je, et c'était magnifique parce que toute ma carrière, je me suis servi. Oui, mais tu sais que moi, j'avais un gardien, il était groupe 1, il faisait yoga, il était 1, il était à 6%, et tu sais quoi? Putain, il a joué pendant 20, 25 ans. Et il a joué pendant 8 ans et demi sans rater un match. Peut-être que c'est une coïncidence, peut-être pas, tu vois. Et donc, c'est par rapport à ces exemples que tu peux valider, des choses qui ne devraient même pas être validées parce que c'est la science. C'est la science.
Et qui pose ta question?
Professeur, finalement, c'est lui, professeur. C'est lui, c'est son nom maintenant.
Professeur, oui.
D'espagnol.
Alors, j'ai jamais voulu même challenger ce titre à Pierre, hein, je vous le dis, les gars. Non. J'ai jamais arrivé, j'ai donné une leçon à Pierre. Moi, c'était toujours, j'arrive, les oreilles sont ouvertes et la preuve. En 2004, je me rappelle de choses qu'ils m'ont dites et qui m'ont servi pour ma carrière.
C'est pareil dans les deux sens, Quentin. Moi, je me rappelle de choses que les joueurs m'ont dit, des choses qui ont du sens, des situations et des associées à des paroles. Et c'est comme ça que tu te construis en tant que joueur, en tant que coach, en tant qu'humain, en tant que n'importe quoi.
Il y a toujours l'élève qui va dépasser le maître, inquiète, Ricky. Q, il est en chemin. Et le professeur, tu vois, version 5.0, il arrive. On a capté. Pose ta question, Ricky Rondeau.
Non, rapidement, Pierre, avant de conclure, moi, je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Bah, pareil, encore une fois, expérience MIP, là, dans mon master's. Et là, je t'avais vu Las Boas. Et, il a fait une conférence sur le sport. Je sais pas, il a fait un truc multisport, tout ça. Et, il y avait un nageur qui est venu à sa rencontre. Il nous l'a expliqué. Un nageur qui vient à sa rencontre, il lui dit, oh, moi, j'ai entendu un truc par rapport au genre de foot, hein, même à Tottenham, dans tous les grands clubs. C'est vrai que les joueurs, ils sont en train que deux, maximum trois heures par jour. Après, ils font rien de la journée. Villas-Boas, il dit, bah, ouais. Il dit, ouais, des fois, on a deux séances par jour, mais c'est en pré-saison, mais sinon, c'est deux heures, trois heures. Et le nageur, il était choqué. Il dit, those motherfuckers. They earn a million. Ils ont des millions. Trois heures. Moi, je suis là en train de nager comme un fou dans la piscine. Six heures par jour. Trois heures le matin, trois heures le soir. Tous les jours. On a dit, comment c'est possible? Et Villas-Boas, justement, et ce qu'il nous a dit, c'est que ça lui a fait tilt un peu dans la tête. Et il pensait mettre en place, implémenter un peu un système où le joueur de foot resterait quasiment toute la journée au club.
Il l'a jamais fait, je te le dis.
Non, mais non. En fait, justement, il a jamais eu les épaules, enfin, les coudées assez larges pour le mettre en place en club en tant que coach. Et là, tu sais, il est en train de candidater pour être président de Porto. Il a dit, moi, si un jour je suis président d'un club, c'est un truc que j'aime mettre en place, tu sais, avec des sports scientifiques, tout ça, faire une heure de vidéo, entraînement de deux heures, après derrière un peu de force, après diététique, sieste, après tu reviens, tu fais des travail un peu, bah, que lui, il est très sports scientiste, tout ça, staff élargi, tout ça, un peu à la portugaise, hein, tu sais. Et je voulais savoir un peu ton opinion par rapport à ça en vitesse, tu penses que on peut aller plus loin en matière de préparation et en matière d'entraînement de foot des footballeurs.
Alors on peut toujours aller plus loin. Maintenant, dans cet exemple précis, je vais dire une chose. Est-ce que tu as déjà vu un nageur faire du surmonteur? Alors tu vas dire pourquoi il demande ça lui?
Parce que effort, bien sûr.
Voilà, moi je les ai vus. Moi. Quand j'étais en fac, j'avais un nageur qui a été au JO. On faisait surmonteur, il n'arrivait pas à sauter un mètre. Pourquoi? Parce qu'il avait aucune explosivité. On en revient à l'explosivité, d'accord? Il flottait, donc il y a aucune résistance. Donc c'est trop facile de comparer des charges d'entraînement, enfin des durées d'entraînement, voire des charges de sport à sport. Ça a aucun rapport. Donc, et c'est pour ça que moi j'ai même aussi du mal, même en rééduque, des fois je suis extrême quand on fait de la rééduque ou qu'on met les joueurs dans l'eau, parce que ça développe les fibres lentes. Et nous, on veut des fibres rapides. Donc, au niveau de la charge d'entraînement, est-ce qu'on peut toujours faire mieux? Oui. Est-ce qu'on peut passer plus de temps? Ta qualité d'entraînement ne se réduit pas à la durée d'entraînement. C'est ce que je veux dire. On en revient. Moi, je vous donne des exemples précis. Bah, on en revient à celui que je connais bien. Bielsa, partout où il va, il avait des chambres pour sur place et il fallait que les joueurs restent parce que des fois, tu avais deux entraînements. Il a construit un truc à Lille qu'ils n'ont jamais utilisé. Donc, est-ce que tu as besoin pendant la semaine des fois de doubler? Oui, des fois, tu as besoin. Est-ce que s'entraîner plus. Si tu regardes la moyenne des clubs actuels, s'entraîner plus équivaudrait à s'entraîner mieux pour de meilleurs résultats. J'en suis pas persuadé du tout. Par contre, est-ce que tu peux améliorer, est-ce que tu peux encore optimiser l'entraînement de chaque joueur? Ça, je pense oui, sans aucun doute. Mais pour ça, il faut avoir le staff et il faut aussi avoir des joueurs qui soient réceptifs et l'opportunité de le faire. C'est facile à dire, c'est très difficile à mettre en place, surtout dans la durée.
Ça en revient à une éducation, comme tout. Je pense qu'il y a tout qui évolue. Et quand tu t'adaptes et tu vas avec ton temps, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de psychologie. Pour moi, c'est un tout. Tu peux pas faire d'un côté et pas de l'autre. Ça doit être harmonisé. Et je pense qu'avec l'évolution du football, tu pourras optimiser encore plus les performances du joueur. De toute façon, c'est vers ça qu'on tend. On est dans un monde où on veut toujours de la performance. Tu l'as dit aujourd'hui, faut gagner, faut de la performance. On veut toujours plus. Et on fait plus jeune, on fait plus fort, on fait plus rapide. Et c'est le monde qui part comme ça.
Bah, tu peux tirer des leçons. Dis-moi. Tu peux tirer des leçons d'entraînement. C'est ce que j'avais essayé de faire moi, par rapport à des capacités physiques dans des sports, parce qu'il y a toujours des, ça se coupe. Tu vois, les mecs qui ont les plus grosses VO2, c'est des skieurs de ski de fond, tu vois. Donc, des mecs qui ont une résistance lactique terrible, t'es en Italie où tu fais pas mal de lactique, ça va être les, à l'aviron, hein. Et le problème, c'est l'aviron. Non. Et de loin, les plus gros seuils anaérobies, c'est les rameurs. Ben oui, parce que t'es assis. Donc tu peux fonctionner plus longtemps. Par contre, après évidemment en athlée, ça va être coureur de 400. Donc mais t'es debout. Donc c'est un peu, tu peux pas t'entraîner. Exemple parfait, tu peux pas faire une séance, tu peux pas faire durer une séance de 400 pendant 3 minutes comme ça durait sur un bateau. Pourtant les lactates seront beaucoup plus hauts sur le bateau. Donc tu vois, il faut toujours qu'est-ce que tu peux il y a toujours des choses à aller chercher dans notre sport même de nos jours, surtout maintenant avec les technologies. Mais ça s'adapterait à un joueur en particulier plus qu'à un autre, pas de manière générale à refaire une méthode et tout le monde doit s'entraîner plus. C'est le même problème que j'avais avec Hugh quand ils disent à 2 fois 4 minutes, tout le monde doit s'arrêter. Non, on est 25. D'accord. Donc je pense que il y en a un tiers qui en a trop fait ou un tiers qui a bien fait et un tiers qui n'a pas fait assez. Donc tu vois, c'est de ce côté-là, il y a encore de la marge.
Mais c'est dur que dire. Il y a de la marge et c'est merci. Franchement, attends encore une fois.
Ah, El Professeur. We call him El Professeur.
Merci El Professeur parce que tu es notre professeur à nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pierre, pour toi dans ces jours-là, dans ces semaines, dans ces mois? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter et qu'est-ce que tu fais ce week-end?
Un club de Ligue 1.
Qu'est-ce que je fais ce week-end? Ce week-end, j'entraîne mon gamin là, parce que donc on aura un match dans le coin et je vais regarder une vingtaine de matchs de foot. Donc, très sincèrement, les semaines internationales, c'est difficile parce que déjà ce soir il n'y en a pas, donc je sais pas ce que je vais faire, mais à peu près ça.
Tu suis à la Ligue 1?
Je quoi?
Tu suis à la Ligue 1?
Évidemment.
T'aimerais prendre en main un club de Ligue 1
J'aurais aimé. Alors deux choses. J'ai vraiment aimé à une époque parce que je trouvais toujours terrible d'avoir fait ce que je fais et de pas avoir bossé en France parce qu'il me manquait quelque chose, un genre de reconnaissance. C'est plus du tout le cas maintenant. Par contre, ce qui pourrait être attractif maintenant en Ligue 1, c'est justement maintenant on a des structures qui se développent qui n'existaient pas à l'époque. Tu vois. Donc maintenant, je peux te nommer. Des clubs où il y a des vraies structures de prépa physique, des vrais départements performance avec des labs qui n'existaient pas avant. Donc ça, ce serait l'attrait, ouais, de voir justement d'être partie prenante de cette évolution dans mon pays d'origine, ouais, ce serait bien. Mais pas, tu vois, je me réveille pas le matin en me disant waouh, j'aurais pas coaché en Ligue 1, qu'est-ce que j'aimerais coacher en Ligue 1, parce que sinon, non, voilà. Et puis j'ai tellement plus de réseaux à l'étranger, malheureusement que.
Voilà. Voilà ce qu'on te souhaite alors. Franchement, Ricky l'a dit, Ricky c'est l'oracle ici, tu vois, c'est l'oracle, c'est celui qui voit dans le futur. On te souhaite un très bon poste très rapidement. Ricky, ça te dit quoi ce week-end?
Comme Pierre l'a dit, hein, pas de match ce week-end vu que c'est la trêve. Donc du coup, je suis avec mes petits de Versailles. On a un match à Meudon avec les 18. Et puis, semaine BEF, donc on est là, on est en apprentissage. Justement, là, je suis en pleine, on va dire, c'est quoi encore, unité arbitraire, filière année, les filières, tout ça, donc anaérobie, aérobie, on est un peu dedans, je suis un peu dedans aussi. Ben, vraiment très basique, hein, pour connaître un peu les bases, mais c'est vachement enrichissant, et puis on avance tranquillement, le projet avance.
Et Thiel ?
ATL début de semaine, nous on a match comme en MLS, tu peux choisir de jouer en semaine internationale et on va jouer à Toronto. On a 6 internationaux, eux ils en ont 1.5 ou 2. Donc ouais, il y a et ils tournent pas trop mal, ils ont leur première défaite mais ils ont un semblant de revival. En tout cas, vous savez hein, que retourner à Toronto c'est toujours un plaisir, il y a énormément de personnes que j'apprécie énormément là-bas. C'est un club qui a beaucoup compté pour moi. Donc voilà, petit week-end spécial. Et sinon, le quotidien. Grateful for 3 p.m. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps de la part d'Inky Johnson. Et j'ai adoré. C'est, tu sais, il y a des gens qui se plaignent vachement de leur rythme de vie, de leur quotidien et tout. Et vous savez, nous, on a des grandes familles. Même toi, Pierre, tu as 3 enfants. Donc tu sais ce que c'est, les rythmes élevés. Encore, les tiens sont plus âgés. Mais tu vois, de pouvoir aller les chercher à l'école, de pouvoir jouer au foot, c'est franchement... Grateful for 3 p.m. d'être dans la queue pour aller les chercher à l'école et tout, parce que vraiment c'est un quotidien qui me plaît encore énormément. Donc voilà, les conseils avisés de Pierre m'ont amené à ce à ce stade-là. Non mais en sérieux, Pierre,
je merci. Je t'avais dit de t'arrêter à 2, pas. T'en as fait 4.
Merci beaucoup pour ta disponibilité. Vraiment, tu nous as appris énormément et tu vois, c'est pas mal de pouvoir gommer un petit peu le côté random du foot, tu sais, le côté un peu ouais non mais fais ça, t'auras cette chance de faire ça. Non, c'est un sport qu'on aime, mais c'est des détails et c'est du peser mesuré. Donc merci ouais. De nous éclairer quand
un
même
métier. C'est un métier
c'est vrai ce que tu dis. Des fois quand on me demande ce que je fais, je dis je m'occupe des détails. J'ai sûr que no turn, no stone unturned, you know. Et pour un petit mot qui devrait intéresser vos auditeurs là, c'est que tu dis on peut décider de pas jouer en trêve internationale. En fait, c'est aussi un aspect dans lequel le directeur de la perf est impliqué en MLS. Tu fais des vœux. Je sais pas si ça existe en Europe. Tu fais des vœux et tu demandes à la Fédé. Voilà, nous on a ces 4 vœux et il t'en exauce un pour sûr. Donc exemple Toronto, les vœux de Toronto, c'est pas jouer à domicile au début.
C'est la lampe
parce qu'il fait trop froid.
C'est la lampe. C'est des génies.
Donc il y a des clubs qui disent putain nous on a 7 internationaux donc on veut surtout pas jouer en trêve internationale. Mais donc c'est les stratégies aussi. Un coach va dire donc c'est des calculs qui n'existent. Je sais pas si ça existe dans les autres championnats, mais en tout cas en MLS c'est un truc voilà. Dans les réunions de pas de crise, mais il y a des stratégies adoptées suivant ton effectif, suivant si t'es ton climat, suivant etc etc.
Franchement,
et London, en parlant de climat, London,
le climat de London, il change. Tu vois, aujourd'hui, ça, je sais pas ce que ça va être demain. Donc, on vit au jour le jour à ce niveau-là. Mais sinon, ce week-end, cette semaine et ce week-end, ouais, il y a pas de match de championnat. Donc, on va un peu se rapprocher de certains joueurs pour voir comment ils sont là. Tu vois, comment ils vivent leur semaine internationale. Pour ceux qui sont partis, ceux qui sont pas partis. Et pour le reste, non, on continue le quotidien normal, on s'occupe de nos projets respectifs, on essaie de, tu sais, chaque semaine, ça avance un peu plus, on avance et on vous tiendra au courant. En tout cas, monsieur Pierre, franchement, El Professeur, le Master, tu vois, on t'avait trouvé un nom. Il y a toujours.
C'est trop.
Le El Professeur, le Senior, El Professeur Senior, tu vois. El Professeur Senior. En tout cas, merci. Franchement, merci beaucoup parce que, ah ouais, t'es...
Un plaisir.
Non, c'était vraiment très détaillé, très précis. Et comme mes deux frérots, ils l'ont dit, bah voilà, les gens se rendent compte que c'est pas une histoire de chance, le football. C'est pas la performance dans tous les cas. C'est pas une histoire de chance. Surtout pour un sport comme le nôtre. Et on est content pour ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié. Et tu sais, mais Pierre, malheureusement pour toi, tu vois, les gens comme toi, mais nous, tu connais Monsieur Ravio. Tu connais très bien Monsieur Ravio. Monsieur Ravio, tu vois, nous, il nous faisait faire des pompes des fois le soir quand on faisait des bêtises, tu vois. Il nous faisait marcher autour du bâtiment. Je sais pas si on avait fait trop de kilomètres à 13 ans ou si ça allait jouer sur l'Osgood, mais en tout cas, le soir, quand on faisait des trucs comme ça, il disait Monsieur Bassong, Monsieur Fati, Monsieur Westberg, basket par cas. Allez hop, vous tournez, c'était Ballon Main Corps. Merci beaucoup, mes super barrieux. Merci à mes frérots. Merci à vous. On est ensemble. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Q.
One love.
Merci, les gars. Bye.
Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon Main Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite. J'espère que t'as kiffé passer un peu de temps en notre compagnie et que t'en as appris un peu plus sur ce grand mystère que peut représenter le quotidien, le mental du sportif de haut niveau. D'ailleurs, si t'as vraiment apprécié, n'hésite surtout pas à nous donner de la force sur les réseaux sociaux pour la génération 86. On dit souvent que tout ce qui se passe en famille doit rester secret. Bah là, tu sais quoi, on brise les codes. On t'autorise à en parler, à partager ces réunions familiales avec le plus de monde possible. Fais tourner et partage nos valeurs avec passion. Et au fait, si tu veux retrouver tous nos autres épisodes, c'est super simple, comme un contrôle passe. Ils sont sur toutes les plateformes traditionnelles d'écoute. Merci encore pour ton soutien. Et comme disait un illustre monsieur qui nous est cher à tous, et au coco, ballon, main, corps. Allez, à la semaine prochaine, la famille.